Voilà, bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Merci d'être venu partager nos réflexions. Un petit écho, c'est peut-être, voilà. Nos réflexions sur un sujet très pertinent, je crois, et d'une grande actualité, heure des civilisations ou Pentecôte des peuples. Je dis quelques mots pour introduire cette soirée de réflexion, cet après-midi de réflexion. Nous avons donc quatre intervenants. Nous couperons par conséquent l'après-midi en deux, après avoir entendu d'une part Madame Albanel et Monsieur Yacoub. Et dans une seconde partie, nous arrêterons davantage aux questions sur Babel, Pentecôte, biblique, donc avec Jean-Louis Deloffre et Luc Forestier. Donc chaque intervenant parlera à peu près 20-25 minutes. Nous ferons une pause vers 16 heures. J'espère que nous aurons le temps de faire un petit débat d'abord avec les deux premiers intervenants et ensuite nous aurons en fin d'après-midi un temps un peu plus long de discussion et nous arrêterons très fermement à 18h ou à peu près 18h. Inutile de dire que le sujet que nous essayons d'aborder, que nous serons évidemment bien incapables de trancher quant au fond, est un sujet tout à fait brûlant, puisque notre terre connaît aujourd'hui des tensions internationales très vives. On a pu et on peut encore se demander si nous n'allons pas vers des guerres, peut-être même nucléaires, Iran, Corée du Nord. Nous connaissons le terrorisme et bien d'autres choses. Et peut-être plus gravement encore, sur le fond, on a comme le sentiment que les peuples eux-mêmes, après un temps de grande utopie, d'espérance, après la Seconde Guerre mondiale, se replient sur leurs identités, sur leurs frontières, sur leur nation. Le populisme semble en effet régner chez beaucoup. Et donc, les grandes utopies de relations internationales apaisées, de relations organisées autour d'institutions comme l'ONU et d'autres, semblent en péril. D'où la fin de, me semble-t-il, mais on pourra en discuter, de grandes espérances qui nous avaient marquées dans les années de l'après-guerre. Alors, c'est un peu cette question que nous avons voulu aborder. Nous l'abordons, et comme je l'ai dit à l'instant, nous ne prétendons évidemment pas dire le dernier mot, mais il nous a paru quand même extrêmement important, dans une période un peu fiévreuse, de nous donner, puisque nous avons la chance de le pouvoir, le temps de la réflexion et aussi du débat et de la discussion, car c'est encore l'échange de la parole qui permet de sortir de l'irrationnel et surtout des peurs. Voilà, je n'en dis pas plus, je vais laisser la parole d'abord à Madame Albanel, qui va donc nous parler de la thèse de Huntington. Huntington, elle va sans doute nous le présenter, c'est un auteur américain de Harvard, je crois, qui a publié il y a quelques années un livre qui a fait beaucoup de bruit, le Heure des civilisations, Clash of Civilization, mais on oublie en général le sous-titre qui est And the Remaking of World Order, la reconstruction de l'ordre mondial qui a paru aux États-Unis en 1996 et qui était traduit chez Odile Jacob en 97. Madame Albanel est professeure dans ce centre Sèvres, professeure en titre. Elle préside aussi le service jésuite des réfugiés de France, des réfugiés, le service français des réfugiés, et elle a fait une thèse importante sur Hannah Arendt, qui s'intitule « Amour du monde, christianisme et politique » chez Hannah Arendt, paru aux éditions du Cerf en 2010. Et s'il y a besoin de compléments, Véronique, j'espère que vous ne les ferez. Je vous donne la parole. Merci d'avance.
Merci Paul et bonjour à tous. Alors effectivement, il me revient la tâche de présenter la thèse de Huntington. Avant, je ferai un petit crochet par Fernand Braudel, non pas parce qu'il est français, aucun cocorico, surtout n'y voyez là rien de nationaliste, mais parce qu'il a, on ne le sait peut-être pas toujours, largement influencé Samuel Huntington et son choc de civilisation. Et je pense qu'il donne un certain éclairage, donc en introduction, je passerai rapidement par les deux ouvrages que cite Huntington, principalement les écrits sur l'histoire de Brodel, publié en 1969, et Grammaire des civilisations, écrit en 1963. C'est un simple manuel pour terminale. Je dis manuel très volumineux, pas facile d'ailleurs à utiliser, et qui n'a été publié qu'en 1987. Donc vous voyez, très peu de temps avant l'ouvrage de Huntington. Alors, juste quelques références. Dans Grammaire des civilisations, Brodel rappelle, il commence par là et ça me paraît très important, que le mot civilisation est récent, il n'apparaît qu'au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle, et il signifie alors le contraire de barbarie. Vous voyez, en référence avec les mots policés, civilisé veut dire le contraire de non policé et de barbare, dans le meilleur des cas, le bon sauvage de Rousseau. Et il ajoute tout de suite que le mot civilisation au pluriel apparaît au début du XIXe et marque la perte progressive et heureuse, ajoute-t-il, de la supériorité morale de l'Occident, fin de l'excellence et d'une élite qui se prétend supérieure. Dans ce même ouvrage, Brodel distingue trois civilisations non européennes, il commence par là d'ailleurs, et trois civilisations, dit-il, européennes. Huntington en compte 9 chez Brodel. Je vous avoue que j'ai eu beau refaire les calculs dans tous les sens, je n'arrive pas à 9, mais voilà. En tout cas, moi j'en compte 6 majeures. Parmi les trois civilisations non européennes, il distingue l'islam et le monde musulman, le continent noir, appelons plutôt l'Afrique, et l'Extrême-Orient. Alors bien sûr, il le décline, Inde, Japon, Chine. Et parmi les civilisations européennes, il distingue l'Europe, l'Amérique et l'autre Europe qui est la Russie et le monde orthodoxe. Il y a un ouvrage beaucoup plus accessible qui s'appelle « La Méditerranée, l'espace et l'histoire », publié en 1977, et un petit chapitre très bref qui s'appelle « Sur l'histoire », où Brodel résume ses thèses que je trouve extrêmement intéressantes, surtout lorsqu'on les met en parallèle avec celles d'Huntington. Dans cet ouvrage, Brodel définit la civilisation comme une communauté culturelle, c'est-à-dire, dit-il, une façon de penser, de croire, de manger, de boire et de vivre. Et il qualifie les civilisations, je le cite, de monstres à interminable destin, toujours prêts à montrer les dents. Il ne va pas suivre, vous savez, la célèbre formule de Valéry, les civilisations sont mortelles, il dit, elles survivent, elles renaissent de leurs cendres. C'est donc le fameux temps long, si cher à l'historien Brodel. Alors, le plus important, c'est que Brodel retient la valeur explicative du concept de civilisation. Les civilisations, elles ont un sens, une valeur explicative. On va retrouver la même chose chez Huntington. Et cette valeur, dit-il, c'est le conflit des civilisations. Alors qu'il s'agisse de conflits courts, du type chute de Constantinople en 1453, ou de guerres longues, comme les croisades, la question, c'est toujours la même chose. Et civilisation, je le cite, trouve dans le combat leur raison d'être. Il ajoute cette phrase terrible, les civilisations, c'est donc la guerre, la haine. Juste un petit rapprochement, parce que ce thème est très à la mode. Régis Debray vient de publier un livre aussi sur la question des civilisations. Et il rappelle, en reprenant les thèses de Brodel, que la civilisation est offensive, alors que la culture est défensive. Je trouve que c'est une distinction intéressante. Alors, encore une fois, Brodel insiste sur ce conflit des civilisations, mais il s'interroge juste après en disant, je le cite, « L'avenir n'appartient-il qu'à ceux qui savent haïr ?»« Non, répond-il, les civilisations ne sont pas que cela. Elles sont aussi sacrifice, rayonnement, accumulation de biens culturels, héritage d'intelligence, échanges multiples, techniques, idées, même croyance, et il ajoute cette formule magnifique, et bigarrure. Bigarrure. Il conclut, la Méditerranée, c'est une mosaïque de toutes les couleurs. Alors j'en viens à présent au choc des civilisations. Huntington, sa thèse, je ne vais pas vraiment le représenter, effectivement c'est un professeur, et ce qui est très étonnant, c'est que dans son secteur, plutôt la géopolitique si l'on peut dire, c'est très rare de faire un best-seller. C'est même quasiment impensable. Et il y a tout un petit explication en disant qu'il faut trouver le bon titre et qu'évidemment, il a trouvé le titre parfait qui est le choc des civilisations. Peut-être intéressant de savoir qu'en 1993, 3 ans avant la publication en anglais du choc des civilisations, il publie un article dans une revue où il assortit ce choc des civilisations d'un point d'interrogation. Vous voyez, en 3 ans, le point d'interrogation disparaît. On passe à l'affirmation. Alors le contexte, je vais très vite, c'est la chute du mur de Berlin en 1989 et la fin d'un monde bipolaire que certains ont interprété comme, je le cite, c'est le titre de l'ouvrage de Francis Fukuyama, « La fin de l'histoire et le triomphe de la démocratie libérale ». Il est clair que le livre « Le choc des civilisations » peut être parfaitement interprété ou lu comme une réfutation entière, sans doute à juste titre, de cette fin de l'histoire et de la thèse de Francis Fukuyama. Quelle est la thèse de Huntington ? Il la présente comme un nouveau paradigme, c'est ce qu'il dit. Un paradigme, dit-il, explicatif de manière simple de la réalité. Encore une fois, il veut rendre compte de manière pertinente de la réalité. Je le cite un peu long, mais je pense que cette citation est importante. Dans le monde d'après la guerre froide, les distinctions majeures entre les peuples ne sont pas idéologiques, politiques ou économiques. Elles sont culturelles. Les peuples et les nations s'efforcent de répondre à la question fondamentale « Qui sommes-nous ?» Et ils y répondent de la façon la plus traditionnelle qui soit, en se référant à ce qui compte le plus pour eux. Ils se définissent en termes de lignage, de religion, de langue, d'histoire, de valeurs, d'habitudes et d'institutions. On va retrouver tout à l'heure la question de l'identité, et je pense que c'est vraiment au cœur de nos préoccupations, mais vous allez voir, c'est déjà la préoccupation du Huntington. Donc, il est clair qu'en 1995-96, au moment où il écrit Huntington, le paradigme de la guerre froide est obsolète, et donc le paradigme civilisationnel devient la nouvelle grille de lecture qui permet de comprendre ce monde à la fin, notre monde à la fin du XXe et, dit-il, au début du XXIe. Mais il s'empresse d'ajouter, il y a quand même une certaine humilité, ce n'est pas un paradigme pour toujours, après tout, il peut durer comme la guerre froide, 40 ans. Si vous comptez bien, hein, 45-89, à peu près 40 ans. Donc j'ai calculé, cela nous amènerait à 2030 environ. C'est encore long quand même. Alors, 3 points essentiels dans cet ouvrage. Je retiens 3 points. Le premier, c'est clair, c'est il ne faut pas aller trop vite avant de parler de guerre. Ce sont les civilisations au pluriel. Il le dit, les civilisations au pluriel constituent le sujet de ce livre. Huntington reconnaît, lui, 8 civilisations majeures qui s'affirment, dit-il, et combattent. L'Occident, l'Amérique latine, ça c'est assez intéressant parce qu'il met l'Amérique latine en dehors de l'Occident proprement dit, l'Afrique, l'islam, la Chine, il parle plutôt de civilisation confucéenne, le Japon, l'Inde, il parle plutôt de civilisation hindoue, et enfin le monde orthodoxe. Donc vous voyez, la dimension religieuse, on va le voir, est extrêmement importante, mais elle n'est pas unique. Au cœur de l'ouvrage, il y a donc cette notion de civilisation qu'il reprend, qu'il n'invente pas. Il dit clairement qu'il reprend la notion des Grecs, de Spengler, Oswald Spengler et de Brodel. Et il affirme, il est illusoire de vouloir, à la façon allemande, séparer la culture de ses fondements dans la civilisation. Il met l'accent sur l'espace culturel, la langue, la religion, la manière de vivre. Et il ajoute, c'est peut-être un élément intéressant que je n'avais jamais vu dans les commentaires, la race n'apparaît pas comme une distinction cruciale. Il n'est pas certain que la réalité lui donne tout à fait malheureusement raison. La civilisation, c'est un des points, me semble-t-il, le plus important, n'est pas simplement un espace géographique, un espace culturel, c'est surtout une identité, dit-il. Une identité qu'il qualifie de civilisationnelle. Il dira même qu'il parlera de guerre civilisationnelle et de guerre identitaire. Et il dit, je le cite, c'est notre niveau d'identification le plus large. En d'autres termes, concrètement, il cite cet exemple. Un habitant de Rome peut se définir comme romain, italien, catholique, chrétien, européen et occidental. Eh bien, la civilisation, c'est le terme le plus large. Il le dit, les civilisations sont les plus gros nous et s'opposent toujours aux autres eux, nous, eux. Le deuxième point que je voudrais retenir dans ce prolongement, c'est la crise d'identité. Crise que les États nationaux traversent depuis les années 90, en tout cas, c'est ce que dit Huntington, et qu'il va sur cette crise, il va mettre des mots très précis qui résonnent à mon sens tout à fait avec notre actualité. Je le cite. « Presque partout, on s'interroge. Qui sommes-nous ?» Et voilà la réponse. « Face à cette crise d'identité, je le cite toujours, face à cette crise d'identité, ce qui compte, ce sont les croyances, la foi, la famille. On se rallie à tous ceux qui ont des ancêtres, une religion, une langue, des valeurs, et on prend des distances vis-à-vis de ceux qui en ont des différents. » Huntington ajoute, il s'agit d'alliances civilisationnelles enracinées principalement dans la religion et destinées à répondre à un besoin d'identité et de sécurité face à l'inconnu. Le troisième point que je retiendrai, c'est l'opposition qu'il fait entre civilisation et barbarie, mais vous ne voyez rien de nouveau par rapport à Brodel, mais c'est quand même important de le souligner. Pour lui, c'est parler de civilisation plurielle, c'est reconnaître la fin d'une prétention à l'universalité de l'Occident, le renoncement à la suprématie, il parlera d'arrogance très fréquemment. Et il reprend cette expression de Spengler en 1918, c'est la fin de la myopie historique des Occidentaux. Donc il faut vraiment rendre à Huntington cette capacité de penser la complexité du monde, de réfuter les thèses simplistes. Il dira, le monde n'est pas unique, il n'est pas non plus binaire ou ternaire, il n'est pas uni au sens d'harmonieux, mais encore une fois, ce qu'il rejette, c'est la dichotomie Orient-Occident, complètement fabriquée, dit-il, par l'Occident. Et je retire quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, parce que, encore une fois, je l'ai appris de lui, enfin, en tout cas, je trouve que c'est intéressant, c'est deux idées qu'il va rejoindre. La première, c'est les grandes idéologies politiques que nous connaissons tous, que ce soit le christianisme, le libéralisme, pardon, il ne cite pas le christianisme, erreur de ma part. Le libéralisme, le socialisme, l'anarchisme, le marxisme, bref, je continue, tout cela, sont le produit de la civilisation occidentale. Alors que les religions ne sont pas produites par la civilisation occidentale. Il fait remonter les religions environ à 700-800 après Jésus-Christ. Et il dit que ce n'est pas donc l'Occident qui a suscité des grandes religions, hormis peut-être la réforme quand même. Et il termine, les idéologies déclinent, les religions sont de retour. Donc vous voyez, je trouve que c'est aussi un décentrement assez intéressant. Paradigme civilisationnel, il lui semble que c'est le plus pertinent, mais il ajoute, il y a d'autres paradigmes. Le paradigme national, étatique, évident, même s'il est ébranlé par l'international et de l'intérieur par des mouvements nationalistes. Et puis il y a un autre paradigme qui est le paradigme chaotique, que je trouve aussi intéressant, qui rencontre des conflits ethniques, territoriaux. Mais pour lui, ce sont des, entre guillemets, petits paradigmes. Le seul qui rencontre de la réalité avec pertinence, c'est le grand paradigme civilisationnel. Alors j'en viens tout de suite et rapidement à la guerre. Est-elle inévitable? D'abord, selon Huntington, et puis après, j'essaierai quand même de faire une petite lecture critique, mais rapide. Première thèse de Huntington sur ce sujet, il faut reconnaître qu'il annonce de manière prédictive, sa thèse est prédictive, en tout cas en ce qui concerne les conflits, mais elle n'est pas déterministe. Pour lui, les conflits présents et à venir ne sont plus idéologiques ou économiques, ils sont culturels, religieux et j'ajouterais démographiques, parce qu'il va vraiment valoriser considérablement la dimension démographique et il va notamment citer l'explosion, je le cite, l'explosion démographique des sociétés musulmanes, de quoi quand même entretenir aussi un certain nombre de peurs. Sa thèse précise, c'est que les grands conflits auront lieu sur des lignes de failles civilisationnelles, principalement des lignes de failles religieuses, par exemple dans les Balkans, mais pas simplement entre l'Occident et l'Orient, c'est aussi valable entre l'Islam et l'Asie, entre l'Islam et l'Afrique, mais à chaque fois sur ces lignes de failles civilisationnelles. Il ne dit jamais qu'il y aura une guerre entre les civilisations. Et il va même dire comment éviter ces guerres. Il va très très loin dans sa prédiction. Et pour lui, c'est intéressant, je le cite, pour éviter une guerre majeure entre civilisations, il est nécessaire que les États phares, c'est-à-dire les États qui dominent au sein d'une civilisation, évidemment l'Amérique, au sein de l'Occident, donc il est nécessaire que les États phares s'abstiennent d'intervenir dans des conflits survenant dans des civilisations autres que la leur. En clair, Huntington était contre l'intervention américaine en 2003 en Irak. estimant que la démocratie occidentale n'était pas exportable, alors même qu'on a cherché à le récupérer, les néoconservateurs américains ont cherché à le récupérer. Donc, il est impossible de réduire la thèse d'Huntington à une guerre entre islam et Occident. Et pourtant, je dois dire quand même qu'en lisant vraiment de manière approfondie cet ouvrage, on est surpris par certaines thèses assez ambiguës et puis le fait qu'il souffle sur les braises. Par exemple, il semble, mais je crois qu'il fait plus que sembler, réactiver la distinction de Schmitt, Carl Schmitt, entre ami et ennemi lorsqu'il cite par exemple le romancier britannique Michael Dibdin, c'est au tout début, je le cite, « On ne peut avoir de vrais amis si on n'a pas de vrais ennemis. À moins de haïr ce qu'on n'est pas, il n'est pas possible d'aimer ce qu'on est. » Qu'est-ce que c'est d'autre qu'une claire distinction ami-ennemi ? Alors, toujours avant de préciser son point de vue précis sur la guerre inévitable, je voudrais quand même dire qu'il semble être un visionnaire. En tout cas, c'est ce que tout le monde lui reconnaît, puisque 5 ans après la publication de son ouvrage en 1996, le 11 septembre 2001 lui a donné, entre guillemets, raison, l'effondrement, avec l'effondrement des tours jumelles, et lui confère un aura prophétique qui ne sera pas démenti 20 ans après, puisque le Monde du 19 août de cet été, enfin de 2017, montre à quel point ces thèses sont toujours en vigueur et toujours livrées au débat. Il avait clairement prévu, il parle de quasi-guerre civilisationnelle, la guerre entre l'islam et l'Occident, en tout cas entre l'islamisme et l'Occident, mais il va plus loin puisqu'il affirme ceci, le problème central pour l'Occident, c'est l'islam, civilisation différente dont les représentants sont convaincus de la supériorité de leur culture et obsédés par l'infériorité de leur puissance. Il reprend à plusieurs reprises, donc ce thème de l'islam court, et il va plusieurs fois reprendre le terme que je ne connaissais pas, mais sans doute le connaissez-vous, le terme de « occidentoxication ». C'est la traduction d'un terme arabe qui veut dire l'hostilité de l'islam à l'égard de l'Occident. Alors, c'est clair qu'il va parler de ça, mais en même temps, il dénonce l'arrogance occidentale, je vous le disais. Alors, je passerai rapidement sur un certain nombre d'erreurs qui sont absolument incontestables. Par exemple, il dit que la guerre entre la Russie et l'Ukraine est impossible au nom d'une approche civilisationnelle. Nous avons vu que ce n'était pas le cas, mais je ne crois pas que ça invalide vraiment cette thèse. Par contre, plus grave me semble-t-il, le fait qu'il ait méconnu les lignes de fracture au sein même de l'islam, au sein même d'une civilisation. Et c'est la raison qui m'amène à opérer 2 critiques majeures à l'égard de la thèse de Huntington. La première, qui est liée à ce que je viens de vous dire, c'est qu'il réfute ou il ne veut pas voir l'absence d'homogénéité au sein d'une civilisation. Pour lui, il n'y a une civilisation, elle n'est par naissance, par définition, homogène. Il va donc refuser le multiculturalisme à l'intérieur de l'Occident et il considère, je le cite, qu'à un certain niveau, l'Occident est une unité homogène. Et il ajoute, il doit être uni et homogène s'il veut assurer sa survie. Donc vous voyez, ce n'est pas simplement il est homogène, c'est il doit l'être. Et il va jusqu'à ajouter, la survie de l'Occident dépend de la réaffirmation par les Américains de leur identité occidentale. Alors qu'est-ce que c'est que l'identité ? C'est très simple, là pour le coup c'est le christianisme, la liberté individuelle, la démocratie politique et les droits de l'homme. Donc les Occidentaux doivent admettre que leur civilisation est unique, mais pas universelle. Et ils doivent s'unir pour lui redonner vigueur contre les défis posés par les sociétés non occidentales. Nous éviterons ainsi, je le cite, une guerre généralisée entre civilisations. La 2e critique majeure tient à la construction de l'identité, selon Huntington. Pour lui, l'identité se définit toujours par rapport à l'autre, une personne, une tribu, une race ou une civilisation différente. Je le cite encore, le « nous » civilisationnel et le « eux » extra-civilisationnel sont une constante de l'histoire. Et il va tirer de cette analyse des comportements quasi universels comme le sentiment de supériorité et la peur. Vous voyez, ce n'est pas la peine de lutter parce que ce sont des comportements naturels et universels. Mais le plus contestable me semble être la place centrale qu'il accorde au conflit. Bon, c'est le titre de son ouvrage. Pour lui, le conflit est universel. Je le cite, « Haïr fait partie de l'humanité de l'homme. je poursuis, hein, c'est toujours Huntington. Pour nous définir et nous mobiliser, nous avons besoin d'ennemis, des concurrents en affaires, des rivaux dans notre carrière, des opposants en politique. Nous nous méfions de ceux qui sont différents et nous les considérons comme des menaces. Fin de citation. Alors, pour ma part, cette analyse ne me paraît pas convaincante, enfin pas totalement convaincante, et je lui opposerai une alternative bien connue aujourd'hui, qui est la culture de la rencontre, qui, loin de s'effrayer de la différence, ne fait que s'en réjouir et de s'en enrichir. Le conflit entre civilisations peut être évité, non pas comme nous y invite Huntington en étant de plus en plus homogène autour d'une même culture, d'une même religion, mais en apprivoisant nos différences et en aimant nos métissages, nos bigarrures, pour reprendre l'expression de Brodel. Je conclus rapidement. Alors je vais quitter Huntington et je vais passer à Martha Nussbaum dans un ouvrage de 2010 qui est intitulé « Les émotions démocratiques, comment former le citoyen du XXIe siècle ?» Elle fait une critique extrêmement intéressante du choc des civilisations et elle dit ceci. Elle s'adresse cette critique à elle-même puisqu'elle est américaine. Les Américains s'entendent souvent dire que le mal est une chose qui existe essentiellement à l'extérieur. Qu'on pense simplement à la rhétorique de l'axe du mal qui menacerait notre bon pays. Les gens trouvent réconfortant d'imaginer qu'ils sont pris dans un choc de civilisation titanesque où de bonnes nations démocratiques s'élèvent contre des religions et des cultures supposées mauvaises, issues d'autres parties du monde. La culture populaire nourrit trop souvent cette vision du monde en suggérant que la mort des méchants serait la solution au problème des gentils. Alors, je dois dire qu'au passage, elle dit que ce n'est pas le monopole de l'Occident, ni même de l'Amérique, puisqu'elle va dire que ce mode de pensée, par exemple, est également à lieu également en Inde, par la droite hindoue. Et elle ajoute, pareils mythes de pureté sont trompeurs et dangereux. Aucune société n'est pure. Et le choc des civilisations passe à l'intérieur de chaque société. Penser à tort que notre propre société est pure ne peut qu'attiser l'agressivité à l'égard des étrangers. Et donc, elle va substituer au choc des civilisations ce qu'elle appelle un choc intérieur. C'est-à-dire un choc au niveau beaucoup plus profond, pour comprendre quelles sont les forces qui, en chacun de nous, militent contre le respect mutuel et la réciprocité, et quelles sont les forces, à l'inverse, qui donnent un appui solide à la démocratie. Elle va se référer à l'enseignement de Gandhi, et je la cite encore, « La lutte politique pour la liberté et l'égalité doit d'abord être une lutte à l'intérieur de chaque personne, à l'intérieur de l'âme individuelle. » Je partage, je dois le dire, cette analyse. Il me semble qu'il y a un choc intérieur, un choc des civilisations, mais intérieur à chacun de nous, que l'on peut en tout cas observer à l'égard de la question migratoire, même si c'est loin d'être simple, et que c'est un véritable combat entre la peur et le repli sur soi, ou des forces de vie, de respect et de compassion qui se nourrissent et se révèlent au fil des rencontres avec l'étranger. Je terminerai par une citation de Fernand Braudel que je trouve beaucoup plus nuancée quand même que Huntington. Voici ce qu'il dit à la fin d'écrit sur l'histoire. « En vérité, nous avons besoin d'un mot nouveau, en dehors du mot civilisation et même du mot culture. » Un mot nouveau pour conjurer péril et catastrophe possible et pour dire nos espoirs tenaces. Et ce mot, Brodel le découvre dans le mot humanisme, humanisme moderne, dit-il, et il conclut en disant « Un humanisme, c'est une façon d'espérer, de vouloir que les hommes soient fraternels et que les civilisations se sauvent et nous sauvent. » Je vous remercie.
Un grand merci, Véronique, parce que vous avez su faire droit à la pensée de Huntington, qui est souvent déformée, biaisée. C'est sûr qu'elle a ses limites, vous en avez souligné quelques-unes, mais je crois en même temps qu'elle met le doigt sur certains conflits, certains problèmes, sur certaines plaies que le bon esprit ne veut pas toujours voir. Donc, à ce point de vue-là, il y a un peu de poil à gratter chez Huntington, qui peut nous faire du bien. Voilà, on posera peut-être quelques questions tout à l'heure, mais je vais tout de suite passer la parole à M. Joseph Yacoub, que je remercie de participer à ce colloque, d'être venu de Lyon. M. Yacoub est né en Syrie, mais il se veut surtout libanais, donc je le signale. Il est de confession assyro-chaldéenne, professeur honoraire à l'Université catholique de Lyon. Il s'est beaucoup intéressé au problème des droits de l'homme et a écrit plusieurs ouvrages sur les minorités, dont quelques-uns parus chez DDB, ainsi que de nombreux articles. Donc, Monsieur Yacoub va maintenant nous parler, peut-être surtout sous forme d'un témoignage, de la diversité culturelle et de la civilisation à partir de la civilisation syriaque. Merci encore et merci d'avance.
Merci Père Valadier, merci Bernard de l'invitation. Bonjour à vous tous. Sur cette thématique du conflit, du heurt des civilisations, ma topique est la suivante. Oui, la question que je pose, c'est: vivons-nous un choc des civilisations ou des heurts dus à l'interpénétration des cultures et des civilisations? Je vous livrerai sur ce sujet quelques réflexions personnelles là-dessus. D'abord, un petit rappel. J'avais participé en 2002 au Festival de géographie de Saint-Dié, où j'avais présenté une communication à Saint-Dié sur ce thème du choc des civilisations. Le texte avait été repris avec un texte de Huntington dans un manuel de géographie, Histoire-géographie, paru aux éditions Latent, en 2003, vers un choc des civilisations. Donc il y avait un extrait de Huntington, un extrait de votre serviteur à ce propos, c'est dire l'importance de cette thématique. Et puis un second article qui est paru dans la revue Panoramique, qui malheureusement ne paraît plus, qui avait publié un numéro spécial sur cette thématique du choc des civilisations auquel j'avais participé. Je vous donne d'abord, comme tout enseignant qui se respecte, le plan de mon exposé. Dans un premier point, observation liminaire concernant ce vocabulaire. Un deuxième point, des points communs entre les civilisations, mais variété des identités nationales. Un troisième point, corrélation, interaction et emprunt intercivilisationnel et interculturel. Le point suivant, on emprunte, on absorbe même, mais sans perdre son âme. Et un dernier point, des conflits de culture et de civilisation dans le passé et le présent, quoi en penser. Puis je terminerai par une conclusion dans laquelle je donnerai la parole à Chateaubriand sur cette thématique. Donc, d'abord, observation préliminaire concernant le vocabulaire. Madame Albanel a évoqué quelques textes de Brodel, de Huntington sur cette thématique. C'est dire que ce sont des notions qui sont extrêmement complexes. Il n'y a pas une définition de la civilisation et il n'y a pas une définition standard de la culture. Il y a autant de définitions que de définisseurs, je puis dire. Beaucoup ont écrit sur ces thématiques. J'en citerai d'autres comme Arnold Toynbee, qui est un de mes maîtres à penser, qui a écrit une œuvre volumineuse en 12 volumes. C'est un historien britannique qui a beaucoup écrit sur le génocide arménien et assyro-chaldéen également, et qui a écrit Study of History. C'est un ouvrage colossal qui fait 12 volumes, dans lequel il recense également et il pointe et il liste comme Brodel l'a fait, comme Huntington l'a fait, des types de civilisation. On vient bien au-delà, on va bien au-delà des 7, des 8, on va même jusqu'à 30, et votre serviteur y rajoute la civilisation syriaque. J'en parlerai tout à l'heure, qui est le palier caché des chrétiens d'Orient. Donc les définitions sont multiples, elles sont tributaires de l'espace, elles sont tributaires de la géographie, elles sont tributaires des conditions politiques, des circonstances. Les Arabes utilisent un terme bien avant que l'Occident ait utilisé le terme de civilisation, al-hadara, c'est-à-dire les gens de la ville. Et en araméen, on dit Mdina Yutha, qui vient, la racine est la même, c'est la ville, la civilta, c'est toujours la ville. Voyez, c'est la ville, la cité, qui est le synonyme de la civilisation. On dit Al-Hadar al-Arabiya, Al-Hadar al-Islamiya. Ibn Khaldoun a beaucoup écrit sur cette thématique dans ses prolégomènes. Et bien d'autres auteurs. Et à cela s'ajoute que chaque peuple a une idée différente de la civilisation selon le moment, selon l'espace et selon le temps. Et il est vrai que l'Occident, jusqu'au XVIIIe siècle, la civilisation pour lui était se confondait avec la civilisation occidentale. Et on avait, y compris les missionnaires qui ont été dans le monde, regarder les autres civilisations, les autres cultures, sous le prisme de leur culture. Je le dis d'autant plus librement que je suis chaldéen, en communion avec Rome, donc catholique. On a été converti, on est passé au catholicisme, choc des civilisations, point d'interrogation. On est passé parce qu'on était nestorien, donc des schismatiques, donc des gens qui n'étaient pas dans la ligne. Les jésuites, quand ils sont arrivés en Inde, à partir du XVIe, XVIIe siècle, ils ont rencontré une église chrétienne araméenne importante. Et tout a été fait au synode de Dampierre en 1599 pour éliminer cette civilisation. Choc des civilisations, point d'interrogation. On était toujours dans une culture et le regard qu'on portait sur les autres était le sien. Or, aujourd'hui, heureusement que les choses ont changé. Je lisais il y a deux jours dans l'Osservatore Romano, dont je parlais tout à l'heure, Père Valadier. J'étais à Rome pas plus tard qu'hier, et je lisais une rencontre entre le pape et des novices jésuites au Myanmar, en Birmanie et au Bangladesh, dans laquelle on lui posait la question de l'inculturation. Il disait l'inculturation n'est pas le prosélytisme, ça c'est terminé. L'inculturation, c'est l'incarnation dans l'identité nationale d'un peuple, dans l'histoire d'un peuple, dans ce qu'est un peuple. Donc les définitions, par conséquent, sur cette question varient énormément. Brodel a écrit des choses très intéressantes sur les civilisations méditerranéennes. Mais on peut aller au-delà. On peut aller au-delà et voir dans les trois civilisations méditerranéennes qu'elle a mentionnées bien, bien d'autres civilisations. Et celle que cite également Huntington dans son livre, quand il parle de l'islam, une des faiblesses de Huntington, c'est qu'il ignore l'islam. Il l'ignore. Je ne suis pas là pour le défendre, absolument pas. Le problème n'est pas là. Mais quand il dit que c'est l'islam et le confucianisme qui sont les lignes de fracture avec le monde occidental, ça dénote, à mon avis, une faiblesse de raisonnement. D'abord, l'islam, il n'y a pas qu'un islam, même s'il dit qu'il y a les sunnites, il faut entrer dans le sujet. Voyez-vous. Et quand il dit également qu'il y a les slaves orthodoxes, là également, il y a une faiblesse due d'abord à une méconnaissance. Il n'y a pas eu dans l'histoire des ennemis pires que les orthodoxes entre eux et les byzantins entre eux. Il n'y a pas eu. Prenez l'histoire de la Bulgarie. et le conflit qu'elle avait avec Constantinople, c'est le cas que je cite dans mon article, il y a de quoi s'inquiéter beaucoup de ce que sont les hommes quand ils s'organisent en société et quand ils font des États et ils oublient très vite les croyances, la foi qu'ils ont. Donc là ça dénote une grande complexité de cette question des civilisations, des cultures. Le deuxième point commun entre les civilisations, point d'interrogation, mais variété des identités nationales et avec elles des échelles de valeurs et des priorités. Des points communs, il est évident qu'il y a des points communs entre les civilisations, ne serait-ce que sur le plan de la conduite morale, sur le plan des grands principes qui régissent l'homme et l'humanité. Tous les penseurs ont parlé d'humanisme et d'humanité. Le décalogue est là, les béatitudes sont là, les quatre nobles vérités de Bouddha sont là, l'islam est là, etc. Donc des points communs entre les civilisations, à l'évidence, mais c'est quand ces principes deviennent chers que le problème se pose. Il pose problème. Quand il devient cher, et quand une civilisation devient chère, et un État se l'approprie, ce sont les considérations plutôt de type politique et des considérations d'intérêt qui l'emportent sur le reste. Alors, on peut multiplier les exemples, si vous voulez. On peut multiplier les exemples. Prenez le christianisme lui-même. Je suis un chrétien d'Orient. Donc, je vous parle non seulement en connaissance intellectuelle, mais en témoignage personnel. Prenez les premiers conciles de l'Église, le concile d'Éphèse, le concile de Chalcédoine, qui ont été considérés comme concile œcuménique, mais pas par tous les chrétiens. Les chrétiens d'Orient, ceux dits nestoriens, ont été excommuniés avec le concile d'Éphèse, qu'on a considéré comme diophysite. Au concile de Chalcédoine, qui est venu 20 ans après, 451, ce fut le tour des Syriaques, des Coptes, des Géorgiens, des Arméniens, qu'on a accusé de hérétique parce que monophysite entre guillemets. Et voilà un héritage qui dure depuis 1500 ans. Conflit de civilisation, conflit de culture, certainement conflit de culture, certainement. Parce que ces chrétiens qui étaient dans ces conciles maniaient des langues différentes et ils ne mettaient pas le même sens dans les mots. La langue dominante de l'Église était le grec, alors que ces chrétiens d'Orient étaient des peuples sémites déjà. C'est une différence fondamentale entre une rationalité grecque, Ernest Renan a beaucoup écrit sur cette question, et une rationalité orientale où la foi et le cœur, pour schématiser, jouent un rôle important. Et puis il y a la langue qui fut un obstacle majeur à l'intercompréhension comme elle l'est jusqu'à aujourd'hui. Donc la langue, un fondement majeur de l'identité des peuples. Quand je parle l'araméen ou je parle le français, je suis dans une dichotomie totale. On n'utilise pas les mêmes mots, on ne leur donne pas le même sens. Et ainsi de suite, nous continuons aujourd'hui avec les 6700 langues qui existent sur notre planète. Donc 6700 langues parlées, 6700 manières différentes de dire l'humanité en nous. Et les religions également. Et je crois que de ce côté-là, ceux comme Huntington qui insistent sur l'importance de la langue et de la religion, il suffit d'interroger des peuples d'Orient pour se convaincre de l'importance de ces éléments. je cite Huntington, c'est parce que la thématique est sur lui, mais indépendamment de lui, ce que je dis. C'est indépendamment de lui. C'est-à-dire que la langue et la religion sont deux fondements majeurs de la civilisation et de la culture et de l'identité l'identité des peuples. Alors, corrélation, interaction et emprunt intercivilisationnel et interculturel, oui, à l'évidence, les civilisations ne sont pas des entités abstraites. Aucune civilisation ne se développe dans un îlot isolé. Prenez la langue française. Qu'est-ce que c'est que la langue française ? C'est une langue romane qui trouve ses sources dans le grec et dans le latin. Le colonisateur romain est devenu un élément natif du pays. César a colonisé la Gaule. Il raconte dans son livre sur la guerre des Gaules tous les ravages, toutes les langues qui ont été supprimées en Gaule. Hein. Et avec le temps, ce latin est resté. Il s'est acclimaté et petit à petit, il a donné cette langue française et ailleurs le catalan et ailleurs le etc etc quoi. Donc les langues, les cultures, les peuples ont été toujours en contact et se sont influencés réciproquement. Prenez le lien entre l'arabe, le persan et le turc. L'arabe, le persan et le turc. Oui. Les liens entre l'arabe et l'araméen, même si les penseurs arabes ne veulent pas toujours le reconnaître, il y a pas mal de mots arabes, y compris dans le Coran, qu'on ne peut comprendre si on ne se réfère pas à la langue araméenne ou à la langue syriaque. Le nombre de mots grecs qui sont dans l'araméen, nombre de mots grecs qui sont dans l'araméen. Toute une terminologie philosophique et liturgique est grecque. On dit patriarche, le patriarche, episcopa. Oui. Donc les civilisations, vous voyez, ont toujours connu des échanges importants. Mais qu'est-ce qui est resté avec le temps ? Ben, c'est ça la question qui se pose, importante. Qu'est-ce qui reste avec le temps ? Ce qui reste avec le temps, à mon sens, c'est la capacité qu'une culture a en matière d'absorption des autres cultures et de les intégrer à elle-même. Prenez le français. On dit le français. Le français. J'ai visité plusieurs musées romains ces jours-ci à Rome, parce que je travaille sur l'Empire romain et l'Orient, surtout la Mésopotamie, avec Trajan, depuis Trajan jusqu'à Caracalla, jusqu'à l'empereur Caracalla. Et quand vous voyez cette civilisation latine elle-même, romaine elle-même, mais elle porte dans ses entrailles plusieurs autres civilisations. Non seulement la civilisation étrusque, que tout le monde connaît, mais la civilisation sabine, de la région sabine, et un héritage oriental. Mithra, le dieu Mithra, était un dieu de référence majeure pour les la déesse Isis, la déesse. Et tout ça est entré dans la culture, et le propre ou la grandeur de certaines cultures, si je puis parler ainsi, c'est sa capacité à absorber. Capacité à absorber. Et même, je dirais, sa capacité à effacer d'une certaine manière, voyez, tout ce qui peut venir de l'extérieur. Prenez la langue française, X, Y, Z, les trois dernières lettres de l'alphabet. Prenez Larousse, etc. D'abord, vous constaterez qu'il y a très peu de mots français qui commencent par ces lettres. Parce que la langue française ne supporte pas un nom qui commence par X, Y. Moi, le nombre de fois où je reçois, on me dit Jacob. Je dis, mais non, moi, je ne suis pas Jacob, je suis Yacoub. Et le comble Jacob est la traduction de Yacoub. Le mot araméen Yacoub est devenu Jacob, et Jacob est revenu en Orient sous la forme de Jacob, alors que Jacob n'est pas à l'origine. Les mots qui commencent par Y, parce que la langue française ne supporte pas des termes qui commencent comme ça régulièrement par Y. X, encore moins. Et Z aussi. Donc, chaque civilisation, certaines civilisations arrivent à avoir cette capacité, ce qui n'est pas le cas de certaines autres civilisations comme la civilisation arabo-musulmane. Il y a des civilisations qui ont pu absorber, il y a d'autres civilisations qui, soit par un excès de nationalisme, soit par volonté de dire que nous sommes la bonne parole, ont eu tendance, vous voyez, à réduire tout ce qui les a précédés. Vous voyez, dans les livres arabes, on dit, avant l'islam, avant le 7e siècle, on dit « Asr al-Jahiliya », l'époque de l'obscurantisme. On avait les yeux fermés. Un chrétien apprend ça. Il va chez lui à la maison, ses parents lui disent « Qu'est-ce que tu as appris à l'école ?» Il dit qu'avant le 7e siècle, c'était l'époque de l'obscurantisme. Il dit « Mais comment ça ? Il y avait la Mésopotamie ancienne, il y avait la Phénicie, il y avait des civilisations. » Ben, on a voulu, en plus, on a voulu occulter, et ce qui a été un facteur d'aliénation pour les chrétiens d'Orient. Un facteur d'aliénation majeur. Un chrétien d'Orient vous dira « Je ne suis pas chez moi. » Mais qu'est-ce qui amène ce chrétien à dire « Je ne suis pas chez moi » si ce n'est que sa mémoire, sa culture a été complètement effacée au détriment d'une culture qui s'est imposée à partir du 7e siècle. Bon, comme le temps passe, je vais passer à la conclusion. 2 minutes. Quel sera l'avenir des sociétés aujourd'hui qui sont de plus en plus interpénétrées? C'est une question de aujourd'hui, c'est cette interpénétration qui pose problème. Hein, de la priorité que les uns et les autres donnent à telle chose ou à tel aspect. Par exemple, les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est une thèse majeure de l'Occident que Huntington chérit dans ses écrits. Vous allez dans d'autres civilisations, y compris des civilisations chrétiennes dans le monde, ils n'ont pas la même conception des droits de l'homme. Et puis, ils n'ont pas cette priorité, ils ne priorisent pas cette thématique par rapport à d'autres thématiques. Prenez la Russie, prenez les pays de l'Europe de l'Est et les conflits qu'ils ont avec l'Europe de l'Ouest. C'est quoi ? Conflit de civilisation ? Point d'interrogation. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où des populations de plus en plus diversifiées et des groupes avec des identités aussi disparates auront du mal dans un premier temps à s'assumer et à pouvoir dialoguer à cause justement de la proximité et des différences historiques. Durant cette période de transition, des heurts peuvent se produire et des malheurs se succéder. Parce que l'identité fait appel au territoire et à l'affectivité, le multiculturalisme, entre guillemets, qui détérioralise les espaces et bouleverse la notion de temps, privera l'identitaire d'un référent fondamental et d'un marqueur majeur, son lieu de ressourcement, risquant ainsi de l'atrophier et de l'amputer d'une partie de lui-même. Écarté entre inquiétude et certitude, enthousiasme et déception, le multiculturalisme générera-t-il demain un homme, une civilisation interpénétrée, valable pour le genre humain, point d'interrogation. Alors, à ce titre, tiré des mémoires d'outre-tombe, avec quelques extraits qui sont terriblement d'actualité de Chateaubriand. Chateaubriand, lui qui avait beaucoup voyagé, constaté la relativité des usages et des différences des mœurs, s'interrogeait en 1848 sur le devenir des sociétés humaines. Voici très rapidement quelques extraits tirés de son livre. Et il écrit « On affirme que dans cette civilisation à naître, l'espèce s'agrandira, je l'ai moi-même avancé. Cependant, n'est-il pas à craindre que l'individu ne diminue ? La folie du moment est d'arriver à l'unité des peuples et de ne rien faire et de ne faire qu'un seul homme de l'espèce entière. Soit, mais en acquérant des facultés générales, toute une série de sentiments privés ne périra-t-elle pas ? Adieu les douceurs du foyer, adieu les charmes de la famille. Parmi tous ces êtres blancs, jaunes, noirs, réputés vos compatriotes, vous ne pourriez vous jeter au cou d'un frère. Quelle serait une société universelle qui n'aurait point de pays particulier, qui ne serait ni française, ni anglaise, ni allemande, ni espagnole, ni portugaise, ni italienne, ni russe, ni tartare, ni turc, ni persane, ni indienne, ni chinoise, ni américaine, ou plutôt qui serait à la fois toutes ces sociétés. Qu'en résulterait-il pour ses mœurs, ses sciences, ses arts, sa poésie? Comment s'exprimeraient des passions ressenties à la fois à la manière des différents peuples dans des différents climats? Et sur la langue, et je termine par cet extrait sur la langue, il dit « Comment entrerait dans le langage cette confusion de besoins et d'images produit des divers soleils qui auraient éclairé une jeunesse, une virilité et une vieillesse commune? Et quel serait ce langage? De la fusion des sociétés résultera-t-il un idiome universel? Ou y aurait-il un dialecte de transactions servant à l'usage journalier, tandis que chaque nation parlerait sa propre langue, ou bien les langues diverses seraient-elles entendues de tous? Sous quelles règles semblables, sur quelles lois uniques existerait cette société? Et merci de votre attention.
Voilà, cette belle citation de Chateaubriand est tout à fait dans le sujet. Babel, c'est l'unification quasiment forcée, et Pentecôte, c'est peut-être le multiculturalisme, nous verrons ça tout à l'heure. Merci Monsieur Yacoub, en tout cas, vous avez pour le moins ouvert une fenêtre sur un paysage que nous connaissons mal, mais qui nous donne envie précisément de le visiter davantage pour sortir de nos œillères. Voilà, nous allons prendre quand même 2 ou 3 minutes pour des questions surtout de précision plus que de fond, parce que j'espère qu'à la fin nous aurons quand même un temps assez long pour poser des questions de fond. Donc sur l'un ou l'autre de l'un et l'autre de ces exposés. Que quelqu'un souhaite. Oui. Assez brièvement si c'est possible. Assez brièvement si c'est possible. Ah, sur la culture syriaque.
Oui, j'ai pas j'ai pas pu développer un peu plus que ça. C'est-à-dire, c'est chrétien d'Orient, vous voyez, ce terme ô combien vague, vide de sens, scientifiquement parlant, ne suffit pas pour caractériser ces chrétiens d'Orient. Parce qu'une grande partie parmi eux, ils ont produit une culture, depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans. En accompagnant le christianisme, et ce mouvement avait commencé avant le christianisme déjà. La langue araméenne a pratiquement 3000 ans d'existence. 3000 ans d'existence. Donc sur ces 2000 ans, elle a produit une philosophie. C'est elle qui a transmis la philosophie grecque aux Arabes. Or, on nous dit que ce sont les Arabes, qui ont transmis la culture à l'Occident. Ce qui, historiquement parlant, est faux. Ce sont les Syriaques et les califes abbassides. Les califes abbassides, on est entre le 9e, 8e, 9e, 10e siècle, quand les califes abbassides voulaient une bonne traduction d'Aristote ou de Galien ou d'Hippocrate, les califes abbassides savaient à qui ils devaient s'adresser. Ils s'adressaient à la maison de la sagesse, Bayt al-Hikmah, à la maison où il y avait une centaine de traducteurs syriens, qui traduisaient, qui avaient la charge de traduire les Grecs, les textes grecs, et ils leur faisaient davantage confiance. Ils leur faisaient davantage parce que, comme chrétiens, ils avaient cette ouverture à l'Occident, ouverture à la Grèce. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres qui montre que cette civilisation, que les Syriaques ne sont une religion, ils sont en même temps une civilisation. Et d'ailleurs, Arnold Toynbee, dans ses écrits, il mentionne également, sans trop le développer, il mentionne Syria Civilization, la civilisation syriaque.
Merci, madame, oui.
Oui, de quoi, oui, ajouter à la confusion. Le syriaque, c'est l'araméen chrétien. L'araméen date d'il y a 3000 ans. Une partie même de l'Ancien Testament, il y a des textes qui sont écrits en araméen et qui sont gardés comme tels dans la Torah, et donc des Juifs. Et comme le latin, vous voyez, s'est décomposé, a généré plusieurs langues, l'araméen également a donné l'araméen de Palmyre, l'araméen de Palestine, l'araméen que parlait notre Seigneur Jésus-Christ, et l'araméen syriaque. C'est l'araméen chrétien, c'est l'araméen pour répondre. C'est l'araméen chrétien qui était celui de d'Édesse, la ville d'Édesse. Et c'est Édesse parce qu'elle joua un rôle hégémonique. Sa langue devint syrien. Ce sont les habitants de Syrie. Donc le syrien et syriaque, c'est pas la même chose. Mais l'erreur qui est faite malheureusement, c'est comme si on confondait les deux mots. On dit les Syriens catholiques. Ils ne sont pas les Syriens catholiques, ils sont les Syriaques catholiques. Donc les Syriens, c'est les habitants de Syrie. Et les Syriaques sont les locuteurs d'une langue et les porteurs d'une civilisation.
Voilà, nous découvrons, comme De Gaulle, que l'Orient est bien compliqué. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, gardez-les sous le coude. Nous les poserons tout à l'heure. Et on peut faire une petite pause de 10 minutes au plus, vers 4h20. On peut se retrouver pour la deuxième partie de notre colloque. Merci à nos deux orateurs, oratrices, pour voir la langue inclusive.
bien, je vous propose de poursuivre notre après-midi de réflexion annuelle, je précise, puisque c'est une collaboration entre le Centre Sèvres et le Centre d'études du seul choir des Dominicains qui a lieu chaque année. Donc le Dominicain prend le relais du Jésuite. Vous voyez qu'il y a chez nous aucun choc des congrégations, mais au contraire la culture de la rencontre et de la collaboration même. Ça marche très bien. Le relais est aussi assuré, bien sûr, par deux autres intervenants, mais qui représentent aussi des disciplines tout à fait différentes, puisque nous étions sur un registre qui était celui de l'histoire des idées, la philosophie politique, et puis de l'anthropologie, on peut dire. Et maintenant, ça va être celui de l'exégèse et de la théologie, et probablement peut-être même plus de l'ecclésiologie avec Luc Forestier. Mais tout d'abord, nous allons poursuivre cette seconde moitié de l'après-midi avec le père Jean-Louis Deloffre, et donc avec l'exégèse articulant d'ailleurs premier et deuxième testament. Je préfère dire premier et deuxième plutôt qu'ancien et nouveau, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avec le titre tout à fait significatif, et là on arrive en quelque sorte au milieu là, de la discussion, du débat, l'événement de la Pentecôte, donc acte 2, 1, 13, il faut en rappeler ici la référence néo-testamentaire, est-il anti-Babel, Genèse 11, 1, 7. Donc je cède la parole au père Deloffre.
Voilà, merci beaucoup. Donc je suis l'exégète de service, je suis venu avec ma boîte à outils, et j'espère néanmoins ne pas être trop technique. Alors, je commencerai par poser une problématique. En premier lieu, comment évaluer le rapport dans la Bible entre les récits de la Pentecôte et de Babel ? Alors, l'exégèse, tant ancienne que moderne, a constamment évoqué l'arrière-fond du récit de la tour de Babel pour la compréhension de l'événement de la Pentecôte. Pour nombre de pères de l'Église, ce que Babel a déconstruit, la Pentecôte le reconstruit. L'unité perdue de l'humanité post-diluvienne serait refaite à neuf par l'effusion de l'Esprit qui suscite l'Église, caractérisée selon les pères par son orthodoxie une et harmonieuse, pour reprendre la formule de Daniel Marguerat dans son commentaire du livre des Actes des Apôtres. Alors nous ne sommes plus habités aujourd'hui par le même souci apologétique que les pères. Néanmoins, il demeure une idée similaire jusque dans les notes de nos Bibles. Ainsi, au sujet du texte de la Pentecôte, la Tobe, je cite, « Le don de l'Esprit rétablit ici l'unité de langage qui s'était défait à la tour de Babel et préfigure ainsi la dimension universelle de la mission des apôtres. Et puis, la Bible de Jérusalem va tout à fait dans le même sens. Elle estime que le parler en langue est un phénomène de glossolalie, utilisant des mots en langue étrangère. Luc voyant dans ce phénomène, je cite, « la restauration de l'unité perdue à Babel, symbole et anticipation merveilleuse de la mission universelle des apôtres ». Alors, c'est quand même assez problématique, parce que, outre le fait que tout l'Ancien Testament et le troisième évangile se trouvent mis entre parenthèses, quand même pas rien, on peut se demander, en restant à une correspondance point par point entre Babel et Pentecôte, si l'idée de perte caractérise de façon aussi immédiate qu'il n'y paraît le récit de Babel. Par conséquent, y a-t-il pas entre les deux récits une autre relation à mettre au jour que celui du retournement d'une situation dommageable à l'humanité tout entière ? Et pour ce faire, il nous faut revenir au texte, celui de Babel, d'abord, qu'il est nécessaire de situer dans son contexte, au risque d'en faire la péricope un peu indépendante, qui signe l'état d'une humanité désarticulée, et qui appelle donc sa résolution ultime dans l'événement de la Pentecôte. Il faut dans un second temps relire acte 2, 1, 13, le récit de la Pentecôte, un texte très riche en harmoniques vétérotestamentaires, mais pour ne s'arrêter qu'à l'arrière-fond de Genèse 11, 1, 9 et de son indispensable contexte, comme je vais le montrer. Et bon, il ne sera pas possible, dans le cadre limité de cet exposé, de proposer une exégèse détaillée des textes. Je me propose donc plus particulièrement d'examiner l'enjeu que représente de part et d'autre la notion de langue, qui s'avère être bien plus qu'un moyen de communication, vous allez le voir. Donc, deuxième point, un aperçu sur Genèse 11, 1, 9 dans son contexte. Alors, le récit de la tour de Babel est facilement détachable de son contexte. À première vue, il s'agit d'une séquence autonome qui, en hébreu, commence par « Vayehi » et « Il arriva », que les traductions courantes, d'ailleurs, éliminent, ne rendent pas. Je laisse pour l'instant de côté la question de la traduction du verset 1. Ce « Vayehi » est redoublé au verset suivant, qui fait entrer dans le cœur de l'action. « Ce qui arriva, c'est une migration, un point d'établissement et le projet de construction d'une ville et d'une tour, motivé par le besoin de renommée et la peur d'être dispersé sur la surface de la terre avec l'échec final que l'on connaît. » Il n'y a pas d'indication chronologique dans ce récit. Il y a seulement un lieu, la plaine de Shinéar, qui est mentionné, et le nom de la ville, Babel, que la Septante nomme d'un nom générique Confusion. Sunkusif. Alors, le contexte antécédent de ce récit de Babel est ce qu'on appelle communément la table des peuples, qui s'étend sur l'ensemble du chapitre 10. Après le déluge et l'alliance avec Noé, donc c'est ça en Genèse 9, 17, puis l'épisode de l'ivresse de Noé, qui débouche sur la malédiction de Canaan, figure une cascade de noms, qui sont les descendants des fils de Noé, présentés comme autant de nations qui peuplent la terre. Le chapitre 10 commence par la forme caractéristique et structurante du livre de la Genèse. Et celle-ci, les Tolédotes, des fils de Noé, Tolédotes, signifiant la suite des engendrements qui forment la trame de l'histoire de l'humanité. Le terme Tolédote, traduit par engendrement, qu'on traduit parfois par histoire, qu'on traduit parfois par génération. Bon. Le terme Tolédote et l'expression après le déluge, Achar Amaboul, sont associés donc en 10.1, au début du texte, et en 10.32, à la fin, formant ainsi une inclusion autour d'une section illustrant l'expansion des fils de Noé. Plusieurs verbes concourent à décrire cette expansion et l'allotement de la terre qui en découle. Ainsi, le verbe « parad », se partager, en 10.5 et 10.32. Le verbe « putz », se disperser, au verset 18, ceci au sujet des Cananéens. Le verbe « palag », divisé, qui est à l'origine du nom propre Peleg, au verset 25. Ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'il n'y a aucun jugement négatif qui n'est porté sur ce mouvement. Chacun s'établit en son lieu, selon sa langue, en hébreu Lachon, le terme revenant trois fois en 10.5 pour les fils de Japhet, 10.20 pour les fils de Cham et 10.31 pour les fils de Sem. Et pour cette répartition en langue, il n'y a pas non plus de mention dépréciative. C'est au fond la mosaïque des habitats et des cultures qui se trouvent dépeintes comme fruit de la bénédiction divine à l'issue du déluge et accomplissement de l'ordre divin qui est énoncé en 9.1 « Fructifiez et multipliez et remplissez la terre » qui reprend mot à mot Genèse 1.28. Le déploiement des peuples est le signe de la fécondité de la nouvelle création. Par contraste, le récit de Babel donne un coup de frein à cette expansion qui répond à la volonté divine. En premier lieu, en 9.1, il n'y a qu'une même langue. Alors, en hébreu, « Safa Echat », littéralement « une seule lèvre », ce qui est repris d'ailleurs texto par le texte de la Septante. Et selon les traductions courantes, la Tob, la BJ, la traduction officielle de la liturgie, il y a donc une même langue et les mêmes mots, Devarim, Achadim. Alors, est-ce que cette unité langagière désigne un lexique commun, une lingua franca, qui serait le support communicationnel nécessaire à la réalisation d'un projet collectif? Alors là, il faut analyser les mots. En premier lieu, le terme « devarim » a plusieurs acceptions. Il peut signifier « parole, discours », comme c'est le cas, par exemple, pour le livre du Deutéronome qui commence par les mots « Voici les discours que prononça Moïse. Elle hadevarim asher diber Moshe. » Et de fait, le livre du Deutéronome, qui est appelé « devarim » dans la tradition juive, est organisé comme un ensemble de discours adressé au peuple d'Israël dans les plaines de Moab. En Genèse 11.1, donc au début du récit de Babel, « Devarim Achadim » pourrait fort bien signifier les mêmes discours, pas les mêmes mots, mais les mêmes discours, ceci pour signifier une idéologie commune, une pensée unique autour de laquelle se coalisent les hommes. En second lieu, l'arrière-fond du Proche-Orient ancien, qui est sous-jacent à notre texte, vient éclairer la première expression, « Safa Echat », littéralement « une même lèvre », un même langage. Dans une publication récente, Stéphanie Antonioz revisite donc le sujet en s'appuyant sur des travaux antérieurs, notamment le travail de Christophe Hullinger, montrant, je cite, que le motif d'une seule bouche, Safa Echat, en Genèse 11.1, c'est-à-dire un même discours, est un motif clé de l'idéologie impériale assyrienne dans les inscriptions que l'on trouve du XIIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à Sargon II, au 8e siècle avant Jésus-Christ. En effet, l'expression en acadien, pas isten, est clairement la métaphore d'un commandement unifié à travers l'Empire et elle apparaît dans les récits de soumission des peuples et des ennemis. Bref, bien loin d'évoquer l'âge d'or d'une langue commune à l'humanité, c'est un projet issu d'une idéologie totalitaire qui est désignée ici au début du récit de Babel. La peur d'être dispersé, qu'on trouve en 11.4, c'est le verbe « putz », exactement comme en 10.38, dans la table des peuples, est symptomatique de cette coagulation des esprits qui s'oppose frontalement à la dynamique d'expansion et de déploiement dans la différence que la table des peuples met en scène comme épanouissement de la bénédiction divine. Selon Antonioz, la construction de la ville est d'une tour dont la tête est dans le ciel, vers Rosho Vashamayim, que l'on trouve en 11.4, correspond également à un motif connu dans le Proche-Orient ancien. Cette édification, cette construction, est le support d'une idéologie royale, là encore. La ville et son temple, censé assurer une jonction entre la terre et le ciel, font corps, certes, mais le motif « la tête dans le ciel », affirme l'auteur, je cite, « reflète non seulement la tradition littéraire sumérienne puis babylonienne, il reflète également l'idéologie du temple, qui est aussi la théologie du sanctuaire terrestre à l'image et à la ressemblance du sanctuaire céleste. » Demeure sur terre de la divinité, mais aussi pilier de l'univers tout entier, entraînant son bon fonctionnement et son équilibre dans le culte. Aussi, le motif ne renvoie-t-il pas seulement à la théologie du temple, mais aussi à la médiation royale, puisque le roi est responsable, en définitive, du bon fonctionnement du culte. Fin de citation. Au final, le récit de la tour de Babel dénonce les visions hégémoniques des grands empires qui prétendent réaliser l'unité du genre humain en instrumentalisant le culte, les dieux venant cautionner le pouvoir royal. Replacé dans son contexte, peut-être le récit de Babel fait-il allusion aux grands travaux de Nemrod au chapitre précédent, donc en 10-10-12. Mais ne représenterait-il pas une tentation qui est de toujours? Et cette tentation ne concerne-t-elle que les nations ou bien se présente-t-elle aussi à Israël ? Là, on a toujours tendance à dire c'est toujours les autres. Mais Antonios pense ainsi que le temple salomonien est visé par la critique de Babel. Alors, la fin du récit de Babel porte sur la dispersion des hommes et sur la confusion du langage de toute la terre. Le Seigneur en étant l'agent. Le verbe disperser, put, est le même qu'en 11.4, ce qui advient à la fin du récit est précisément ce qui était craint par les hommes. Mais en même temps, si l'on se réfère à l'emploi du verbe en 10.38, put, il s'agit d'une reprise de l'expansion caractérisant la table des peuples au chapitre 10. Autrement dit, Félix culpa, pourrait-on dire. Car dans la suite du récit se trouve distinguée la descendance de Sem, le mot tolédote étant repris en 11.10, cette descendance à laquelle appartient Abraham, cité en 11.26. Et c'est à partir de lui que l'histoire prendra un nouveau départ en Genèse 12 sous la conduite de Dieu. En lui seront bénis tous les clans de la terre, on utilise le mot là mishpachot, que l'on trouve aussi dans le chapitre 10, Dieu magnifiant son nom alors que les fils d'Adam, regroupés autour du projet de Babel, voulaient se faire pour eux-mêmes un nom. Ce que nous lisons en 11.4, c'est « faisons littéralement, faisons pour nous un nom de peur d'être dispersés sur la face de la terre ». Dieu fera un nom à Abraham alors que les fils d'Adam voulaient se faire un nom pour eux-mêmes. L'échec du projet de Babel est issu du repli idéologique d'une humanité en mal d'unité ou plutôt d'uniformité. Cependant, il ouvre sur l'initiative gratuite de Dieu qui donne à l'histoire un nouvel élan par l'élection d'un seul au profit de tous. D'Abraham à Jésus, alors là, pardonnez-moi, il faut faire un grand écart, d'Abraham à Jésus, il y a tout l'espace de l'histoire d'Israël à laquelle sont arrimées les nations, comme l'attestent l'ensemble de l'Ancien Testament et aussi les Évangiles. Entre parenthèses, c'est un fait qui n'est pas souvent très bien aperçu, mais dans l'Ancien Testament, il est constamment question des nations, constamment. Je cite en particulier, pour m'arrêter un peu aux évangiles, le troisième évangile, premier tome de l'œuvre de Luc, qui, au chapitre 4, rapporte l'incident de la synagogue de Nazareth, où Jésus met en relief le salut dont ont bénéficié la veuve de Sarepta et Naaman le Syrien. Ceci à la grande fureur de ses auditeurs, d'ailleurs. Et cette visée universaliste se déploie pleinement dans le second tome de l'œuvre de saint Luc, le livre des Actes des Apôtres, qui commence là où l'Évangile se terminait, à Jérusalem. Nous pouvons ainsi en venir au récit de la Pentecôte. Si ce récit a une fonction de seuil liminal dans la mission de l'Église censée rassembler les hommes, quelle unité voit-on se profiler dans l'événement bouleversant de l'effusion de l'Esprit ? Cette unité représente-t-elle l'inversion de l'uniformité de Babel ? J'arrive donc à mon troisième point, la Pentecôte et son arrière-fond dans le livre de la Genèse. Alors, le contexte du récit de la Pentecôte est proche et celui du début du livre. Après un bref prologue, donc les cinq premiers versets, Luc relate l'ultime dialogue entre le ressuscité et ses disciples avant l'ascension, notamment la promesse de la venue de l'Esprit-Saint sur eux. Après l'ascension est soulignée l'unanimité des disciples dans la prière, puis, à l'issue du discours de Pierre et l'élection de Matthias, le chapitre 2 s'ouvre sur la mention du rassemblement des disciples. Ils étaient tous ensemble, pantes homou, au même lieu, epito auto. Pour faire bloc, ajoute entre parenthèses Jean Radormakers dans sa traduction littérale. Et Marguera signale que « epito auto » traduit le terme « yachad » des psaumes qui expriment l'unité, l'unanimité d'un groupe. Si l'on compare avec le récit de Babel, on trouve la même idée de rassemblement compact, mais dans Actes, c'est en attente d'une intervention divine. Nous avons donc là une différence significative. Elle survient soudainement. cette intervention, ce qui marque son imprévisibilité. Souffle violent qui remplit toute la maison et apparition de langues, glossailles, comme de feu, se divisant et se posant sur chacun des disciples. Là, il faut être attentif au vocabulaire. Le verbe « se diviser » diamérizo est celui qui figure en Genèse 10-25 et qui traduit l'hébreu « palag ». J'en ai parlé. Ce même verbe figure aussi d'ailleurs dans le Cantique de Moïse en 32-8, lorsque le Très-Haut divisait les nations, diamérizo, comme il partageait les fils d'Adam, ce qui reprend l'image donc de la répartition des habitats des hommes, mais cette fois-ci sous l'égide de Dieu. En tout cas, la division des langues de feu se superpose en quelque sorte à celle des nations et de fait advient le soi-disant miracle des langues en 2.4. Ils se mirent à parler en d'autres langues, hétérais glossais, selon ce que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, glossolalie ou xénoglossie, s'agit-il donc d'une langue un peu mystérieuse qu'ils sont en train de parler, ou de xénoglossie, c'est-à-dire est-ce qu'ils reçoivent le don de parler une langue qu'ils n'ont pas apprise? Alors les avis sont très partagés, beaucoup de commentaires là-dessus. Je vais passer sur l'idée de Marguerat qui fait l'hypothèse d'une intervention rédactionnelle. Il y aurait au fond une première idée de glossolalie qui aurait été transformée par l'ajout de l'adjectif « autre », « hétéros », qui aurait été transformé en « xénoglossie ». Pour Marguerat, il ne faut pas trop forcer le sens et majorer la différence. Il dit « préciser que ces langues sont autres signifie « ce langage, quel qu'il soit, n'est pas le leur. Le discours inspiré par l'esprit ouvre les disciples à un univers différent, à une langue qui leur était jusqu'alors inconnue, source de communication nouvelle ». À mon sens, le type de communication dont parle Marguerat est quand même un peu vague. En effet, dans notre texte, pour revenir au texte, le verbe « entendre » « akouo » revient trois fois au verset 6, 8 et 11 et il exprime non seulement l'idée de réception, mais aussi la compréhension des propos des disciples, et ceci sans intermédiaire. Cette compréhension a lieu dans les dialectes, « dialectos », respectifs des auditeurs. C'est notifié au verset 6 et 8. Et le verset 8 est tout à fait remarquable. Il s'agit du dialecte, littéralement, dans lequel nous sommes nés. Le dialecte dans lequel nous sommes nés se trouve ici désigné bien plus qu'un moyen de communication. La langue précède l'homme. Elle lui donne accès à la réalité et lui permet d'en rendre compte. C'est de culture qu'il s'agit et non seulement de lexique. Je rejoins tout à fait l'idée de M. Yacoub sur ce sujet. Quant aux langues, les glossais, elles sont à mettre en relation avec l'épisode de Babel. En 11.7, nous avons ce terme, glossais, dans la Septante, mais aussi et surtout avec la table des peuples, où glosso traduit l'hébreu lachon. Vous rappelez cette répartition entre langues qui était vue d'une façon tout à fait positive dans Genèse 10. Bien, on retrouve ici la même idée. Hein, et le contact avec Genèse 10 oriente, à mon avis, vers la xénoglossie. D'autant plus que sont citées 15 populations, Parthes, Mèdes, Élamites, etc., qui, selon un grand commentateur du livre des Actes des Apôtres, Greg Kinner, ferait écho à la table des peuples de Genèse 10, sachant que cette table connaît des mises à jour, par exemple chez Flavius Joseph dans les Antiquités juives et ultérieurement dans les Targoumim d'ailleurs. Et comme le note Daniel Marguerat, je cite, « le genre littéraire du répertoire est sous-tendu par une rhétorique de mondialisation ». Alors il faut souligner, néanmoins dans notre récit, que les auditeurs sont des juifs, verset 5, qui habitent Katoikountes, Jérusalem, ou bien des prosélytes, au verset 11, sont donc pas des pèlerins, comme le donnerait à penser le moment de la fête de la Pentecôte. Relevons que le verbe katoikeo est celui qui est utilisé en Genèse 11:2, pour désigner l'établissement des hommes dans le pays de Shinéar. Nous avons là un nouveau point de contact, donc, avec le récit de Babel. Est-ce que cela nous autorise à affirmer que Jérusalem est vue ici comme une Babel, à laquelle l'effusion de l'esprit va imprimer une dynamique missionnaire? C'est possible, parce que l'événement de la Pentecôte crée en premier lieu la confusion, avec, au verset 6, le verbe caractéristique de Genèse 11, 7 et 9, et 9, synkeo, confondant là même leur langage, et c'est pourquoi fut appelé son nom confusion, parce que là même le Seigneur confondit les langages de toute la terre. La confusion des habitants de Jérusalem montre que l'événement de la Pentecôte n'est pas encore accueilli dans la foi. Pour l'heure, c'est la confusion, la stupéfaction et la perplexité, comme le montre le verset 12. Il faudra le discours de Pierre qui suit, qui, par l'interprétation de l'Écriture, donnera sens à l'événement et conduira, par l'accueil de sa parole, au baptême. C'est en 2:41. Conclusion. Le message de la foi à la rencontre des cultures. L'étude du récit de la Pentecôte qui vient d'être exposée a laissé de côté nombre d'aspects du texte, notamment l'arrière-fond de la Pentecôte juive en relation avec l'événement du Sinaï et les résonances prophétiques, tout particulièrement celles du livre d'Isaïe, comme le souligne avec justesse Jean Radermacherst dans son commentaire. Quoi qu'il en soit, par l'abondance des adhérences avec Genèse 10 et 11, il semble assuré que Luc fait référence au récit de Babel lu dans son contexte. J'insiste là-dessus, lu dans son contexte. Comme nous l'avons vu, il y a sans doute référence à la table des peuples du chapitre 10, l'Esprit Saint venant rendre compréhensible à chacun, dans son dialecte, la proclamation des merveilles de Dieu, et posant ainsi le fondement de la mission de l'Église qui doit commencer par Jérusalem, comme cela était déjà souligné à la fin de l'évangile de Saint-Luc en 24:47. Nous venons de le voir, l'hypothèse selon laquelle la Jérusalem du début du livre des Actes des Apôtres est assimilée à Babel est possible. Par la réception de l'Esprit, tous sont appelés à un mouvement d'expansion tel que celui des descendants de Noé lors de la nouvelle création post-diluvienne. Et ce dynamisme missionnaire est d'ailleurs celui qui est décrit en Acte 8. Au verset 1 et 4 se trouve le verbe « diaspeiro », se disperser, qui figure en Genèse 9, 19. Ces trois-là sont les fils de Noé. À partir d'eux, on se dispersa sur toute la terre. Et également en 10, 18, 32. Et également la référence à Deutéronome 32, 8 que j'ai déjà donné. La dispersion des disciples sous le coup de la persécution qui suit le martyre d'Étienne n'est pas décrite comme une conséquence malheureuse, tout au contraire, puisqu'elle sera à l'origine de l'évangélisation de la Samarie en 8:5-25 et conduira les disciples jusqu'en Phénicie, Chypre et Antioche, selon ce qui est affirmé en Actes 11:19. L'événement de la Pentecôte avec comme arrière-fond Genèse 10 et 11 a donc bien une fonction liminale pour l'expansion missionnaire de la jeune Église à partir de Jérusalem. Mais comme l'a montré l'analyse du miracle des langues, l'Esprit Saint ne suscite pas, comme le dit Marguerat, une communication fusionnelle. Il n'y a pas de langage unique qui s'impose. En donnant aux disciples de se faire entendre en d'autres langues, hétérai glossai, au verset 4, l'Esprit investit les cultures. L'Esprit investit les cultures. L'unité se réalise dans le respect de la différence, dans la richesse des patrimoines vivants appelés à être purifiés et transformés par la foi. D'autres livres du Nouveau Testament font écho à cette réalité. Ainsi, le livre de l'Apocalypse au chapitre 5. « Tu es digne de recevoir le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang » des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. Ou encore la vision de la Nouvelle Jérusalem dans la finale du livre. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Ils seront ses peuples. au pluriel, ses peuples, et lui sera le Dieu qui est avec eux. Formule d'alliance caractéristique, mais avec un pluriel tout à fait remarquable. Pour en revenir au récit de la Pentecôte, ne versons pas non plus dans l'idéalité. Le signe de Babel demeure. La tentation de l'involution, du repli identitaire, de la réalisation de projets grandioses et au final idolatriques reste tapie dans le cœur de l'homme. Elle concerne les peuples comme elle concerne l'Église, dont les pasteurs ne peuvent faire l'économie d'un discernement qui, dans l'obéissance à l'Esprit-Saint, gagnera à revenir à la lettre de l'Écriture. Comme le dit saint Paul à Timothée, l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, équipé pour toute œuvre bonne. Je vous remercie.
Merci. Merci, Père Deloffre, dont d'ailleurs j'ai oublié de le souligner tout à l'heure, est enseignant au Collège des Bernardins. Donc, ouais. C'est un élément supplémentaire dans notre diversité.
Voilà.
Et donc, nous le saluons à cette occasion.
Un lieu de rencontre et de culture, hein, d'ailleurs, aussi.
Oui.
Hein.
Oui.
La mission du Collège des Bernardins,
oui.
C'est justement la rencontre.
Absolument, oui, je connais bien d'ailleurs le collège, et c'est tout à fait, je confirme ce que vous dites. Et donc, évidemment, tout ce que vous nous avez dit rend plus subtil, finalement, le rapport entre les deux textes et leur signification. Donc, certainement, nous aurons à réfléchir tout à l'heure et échanger autour de cette question entre Babel et Pentecôte, puisque c'est le sujet. Je voudrais maintenant céder la parole à Luc Forestier, professeur de théologie, cette fois-ci à l'Institut catholique de Paris, au Theologicum. Ecclésiologue, directeur de lycéo depuis peu de temps d'ailleurs, l'Institut supérieur d'études écuméniques, et qui reprend, effectivement, qui va reprendre ce thème de Babel, mais posé sous une autre question, Babel ou Abraham, le rapport du christianisme à l'universel, ce n'est pas la moindre des questions, donc merci Luc, je te salue.
Merci beaucoup, je suis effectivement très très heureux d'être là, et très heureux aussi de voir comment ça a été construit, et comment ça... s'enchaînent les différentes interventions, parce que de fait je vais reprendre plusieurs éléments de ce qu'ont dit mes prédécesseurs avec une petite modification de titre donc, qui est déjà porteuse de la thèse principale, hein, vous voyez à l'écran, la contribution de l'Église catholique à l'universel. Donc tout de suite vous sentez qu'il y a comme une sorte de tension entre ces deux mots, souvent assimilés d'ailleurs, catholique et universel. Souvent, en effet, on traduit catholique par universel. C'est même vrai, vous le savez, dans certains symboles de foi, la traduction du symbole de foi, par exemple, du symbole des apôtres, dans l'Église protestante unie de France, dans le texte qui est habituellement utilisé dans la liturgie, eh bien, on dit « je crois à la Sainte Église universelle ». Voilà. Parce que, bien sûr, pour des protestants français, dire « je crois à la Sainte Église catholique » n'est pas très simple, on le comprend bien. Donc, ils traduisent catholique par universel. Et c'est d'ailleurs souvent comme ça que, dans le langage courant, que si vous êtes interrogé, vous, spontanément, vous le direz vraisemblablement. Catholique, ben, ça veut dire universel. Alors, tout l'enjeu, bien sûr, est de montrer qu'il y a plus qu'une différence, il y a une différence considérable entre ces deux mots qui veulent dire deux choses différentes. Autrement dit, catholique, c'est une certaine manière d'avoir accès à l'universel. Une modalité proprement chrétienne d'accès à l'universel, c'est au fond ça que je veux dire ici. Alors, le point de départ que je prendrai, c'est finalement le débat dans lequel nous sommes en ce moment même. Après-demain, 14 janvier, sera célébrée la journée mondiale du migrant. Et vous avez peut-être vu toute la communication qui va avoir lieu, qui a déjà commencé d'ailleurs, autour de cette journée, et du débat dont cette journée est porteuse. Alors, c'est la 104e. Je dois dire que les 103 premières m'avaient pour une part échappé. Je le reconnais bien volontiers. Mais donc on est dans la 104e, tant mieux. Et dans cette 104e journée, on sent bien qu'il y a de gros enjeux. De gros enjeux, pour les dire d'un mot, vous voyez très bien que l'engagement massif du pape François en faveur de l'accueil des migrants n'est pas sans susciter de la part d'un certain nombre de chrétiens de fortes résistances. On le voit très bien. Et pas des moindres, je veux dire, c'est pas seulement des écrits ou des livres, il y a même des épiscopats entiers dont on sent que, disons, ils accueillent avec modération les invitations du pape François. C'est le moins qu'on puisse dire. Ici, on voit très bien qu'il y a donc, pour l'Église, une véritable question, une véritable tension. Est-ce qu'elle doit être, se laisser entraîner, au fond, je durcis le propos volontairement, naturellement, se laisser entraîner dans la défense du patrimoine, dans la défense d'une culture menacée par des flux importants de migrants porteurs d'autres valeurs, d'autres manières de vivre? Donc doit-elle elle-même participer de cette résistance culturelle à ce qu'on appelle parfois dans certains cercles le grand remplacement, enfin toute cette littérature que vous connaissez sans doute. Ou bien, au contraire, est-elle elle-même, par elle-même, puisqu'elle est universelle, porteuse du fait que, en effet, en son sein, il n'y a pas de nationalité. Je veux dire, vous vous présentez dans une paroisse pour aller à la messe le dimanche, on ne vous demande aucun certificat de nationalité, ni même si vous avez vos propres papiers. Il y a quelques jours, j'étais avec l'évêque des Grecs catholiques d'Ukraine, la cathédrale qui est à deux pas d'ici sur le boulevard Saint-Germain, voilà, au croisement rue des Saints-Pères, boulevard Saint-Germain. Vous avez peut-être vu cette cathédrale. Eh bien, c'est très intéressant d'ailleurs. Ils sont complètement débordés parce que vous pensez bien que la situation en Ukraine fait venir un nombre considérable de migrants. Eh bien, il m'a dit, alors un pourcentage que je ne répéterai pas publiquement, enfin un pourcentage de ses fidèles diocésains ici chaque dimanche sont sans papier. Bon, ben quand même, ils communient. Voilà. Ils sont sans papier, mais ils communient. Donc ici, du coup, où sommes-nous du côté donc de la défense du patrimoine du terroir? Où sommes-nous dans un vaste flux de migration? Alors comment je vais proposer au fond la thèse qui est sous-jacente, hein, la thèse, vous le sentez bien, c'est que bien, il y a une tension qui est structurelle au catholicisme. Ici, je sors la bannière du Saint-Siège, une tension structurelle au catholicisme entre deux ecclésiologies, l'ecclésiologie de l'Église locale et l'ecclésiologie de l'Église universelle. Là, je ne fais que reprendre le père Congar. Une tension très profonde et à laquelle il ne faut jamais résoudre. Il faut accepter de vivre dans cette tension. Mais sous-jacent, et ça, c'est pas le père Congar qui le dit, sous-jacent, il y en a une autre plus profonde et même plus structurante, qui est le fait que, en réalité, l'ensemble des églises chrétiennes, et donc pas la seule église catholique, est dans une forme d'articulation avec le peuple d'Israël. Alors, pour ça, je vais le montrer par deux points essentiellement. Premièrement, me mettre vraiment dans la suite de ce que vient de dire le père Delofre, reprendre la question de la Genèse de Babel à Abraham. En sorte que moi, mon propos ne sera pas Babel-Pentecôte, comme on l'a eu à l'instant, de façon tout à fait intéressante, mais plutôt Babel-Abraham, parce que là, il y a une articulation qui, à mes yeux, est absolument structurelle et structurante. Et deuxièmement, s'expliquer sur cette catholicité propre à l'Église. Catholicité propre à l'Église dont je n'affirme pas naturellement qu'elle est réservée à l'Église dite catholique, évidemment. Mais l'Église catholique vit cette catholicité propre à l'Église, vous suivez ? L'Église catholique vit cette catholicité propre à l'Église d'une manière qui lui est singulière. Alors, d'abord, premièrement, Babel à Abraham. Ce qui est certain, c'est que Babel, c'est un pluriel. Il y a une pluralité dans la manière de comprendre Babel. Il y a une formule de Pierre Géoltrin que j'aime beaucoup. Le texte est beaucoup moins explicite que la version quasi imaginaire véhiculée par notre culture occidentale. C'est-à-dire que nous sommes porteurs d'une représentation sur Babel qui dépasse très largement ces quelques versets du chapitre 11 du livre de la Genèse. Et surtout, ce qui est remarquable, c'est qu'il y a une sorte de bascule dans l'interprétation habituelle de Babel. Pendant des siècles, on peut dire jusqu'au 18e ou au 19e en gros, on a interprété Babel comme étant au fond la combinaison de deux choses. La punition divine d'une humanité orgueilleuse, une humanité qui veut par elle-même faire son unité, eh bien Dieu la punit, premièrement. Et deuxièmement, une punition particulièrement grave, puisqu'elle se traduit par une division des langues dont nous faisons tout le temps l'expérience. Alors, 6700, moi j'en étais resté à 5000, mais en fait, bon, j'ai appris qu'aujourd'hui c'était 6700. Alors, 6700 langues, même Claude Agege, qui en parle, je ne sais pas combien déjà, une cinquantaine je crois, eh bien, vous voyez, avant d'apprendre 6700 langues, bon. Donc du coup, ici, l'interprétation de Babel, elle est encore, on la trouve encore dans le catéchisme de l'Église catholique, par exemple. On voit encore ça au numéro 57. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la manifestation d'une limite à l'orgueil d'une humanité déchue. C'est cette idée que Babel est le signe que Dieu punit l'orgueil de l'humanité est toujours, au fond, est toujours sous-jacente. De même que l'idée que Babel est une malédiction et brise l'unité langagière de l'humanité est toujours présente. En effet, ces 6700 langues font toujours appel dans dans l'humanité aux mêmes fonctions langagières. C'est-à-dire que c'est à peu près les mêmes organes, à peu près, c'est à peu près les mêmes manières de respirer, mais pourtant ces mêmes organes, donc ce qui est commun à toute l'humanité, se divisent, semble-t-il, en 6700, qui sont 6700 façons de parler très différentes. Or, cette question de la diversité des langues et de l'unification langagière trouve évidemment en France un écho particulier. Parce qu'en France, nous sommes porteurs d'une représentation que l'unité de la nation n'est possible que par l'unité de la langue. Ce n'est pas du tout le cas dans d'autres pays, même très très proches de nous, ou en Suisse par exemple. C'est toujours très surprenant quand on va en Suisse de voir la facilité, enfin relative, hein, j'entends bien, avec laquelle ils admettent qu'il y ait quatre langues officielles, puisqu'il y en a quatre en Italie, etc., trois en Belgique. Enfin, on est entouré de pays, et puis peut-être beaucoup plus en d'Espagne, de plus en plus, on a l'impression même, et on est entouré de pays pour lesquels cette diversité langagière ne pose pas problème. Or, en France, c'est un véritable enjeu, pas seulement depuis la Révolution française, comme on le pense souvent, mais même depuis la monarchie, car au fond, dès François Ier, dès le traité de Villers-Cotterêts, on a voulu cette unification administrative, d'abord réservée aux élites, et ensuite, au moment de la Révolution française, étendue à tout le peuple. Si l'on veut, évidemment, que la nation soit souveraine, le peuple soit souverain, et non plus le roi dont on s'est débarrassé, si on veut que ce soit le peuple qui soit souverain, il faut qu'il soit associé au maximum à ce qui est commun. Donc, qu'ils comprennent ce qui se passe, les langues, les règles, d'où la question du français comme langue qui devient tout à fait essentielle. Et cette formule de l'abbé Grégoire, vous connaissez l'abbé Grégoire, vous savez son rapport sur l'état des langues, il a fait une enquête considérable en 1794, et il a ce rapport dans lequel il dit la France est à l'avant-garde des nations pour la liberté, mais pour les langues, nous en sommes encore à la tour de Babel. Voilà. Voilà, bah, alors ça c'est pour lui c'était la fin, et ça a été le programme, un programme très volontariste de francisation et d'écrasement de tous les patois. Ça a d'ailleurs assez bien marché quand même, hein, globalement on peut le dire, parce que tout le 19e siècle a suivi comme un seul homme, quel que soit le régime d'ailleurs, pour imposer en quelque sorte une langue unique. Alors du coup, ça c'est bien là la représentation habituelle, le sens habituel de Babel. Babel, c'est la punition, et c'est la punition par la division des langues. Or, ce qu'on constate, c'est qu'au 19e et au 20e siècle, il y a comme une sorte de bascule dans l'interprétation. Cette bascule dans l'interprétation, elle a plusieurs facteurs. Elle a un facteur certainement littéraire. C'est qu'on se met à réfléchir à la langue comme telle. Stéphane Mallarmé, James Joyce, Georges Brugès, tous ces auteurs réfléchissent à qu'est-ce que c'est que la langue. Et du coup, on comprend que la pluralité des langues n'est pas d'abord un malheur, mais une chance, parce que ça permet de jouer sur les sens. Et bien sûr, ceci est une réflexion, disons, littéraire et linguistique. Mais il y a surtout les expériences totalitaires du XXe siècle, qui, là, sont en quelque sorte le signal d'une transformation dans la lecture de Babel. Parce que on redécouvre plus exactement, ce qui était une lecture tout à fait traditionnelle, que dans cette formule qui a au tout début du livre de Babel, de l'épisode de Babel, briquetons des briques et faisons les cuire, parce que vous savez qu'on n'est pas dans un pays de montagne avec des pierres, mais dans des plaines, où il y a du pétrole d'ailleurs. Donc dans ces plaines, comment on fait pour construire? On prend de la terre, et puis on la fait cuire pour l'extérieur, et puis on met dessus du pétrole, du bitume, pour assurer l'étanchéité. Or, évidemment, briquetons des briques renvoie dans la mémoire biblique à l'épisode de l'Égypte. De sorte que le projet propre à Babel est interprété aussi à travers l'esclavage en Égypte, où là aussi il y a la corvée de faire des briques, et d'en faire de plus en plus, c'est dans Exode chapitre 5. Il faut en faire de plus en plus. Et c'est donc cette conjonction entre l'expérience, disons, des régimes totalitaires et leur volonté hégémonique d'assurer l'unité par un projet total, unique pour tous, qui a permis de comprendre que finalement Babel n'est peut-être pas une malédiction, mais une bénédiction. Je fais ici allusion au livre d'un professeur de cette maison, François Marty, un grand jésuite que j'ai eu la chance d'avoir comme enseignant, la bénédiction de Babel. C'est-à-dire, Babel n'est pas l'action punitive d'un dieu qui veut se venger parce que l'humanité a essayé de l'atteindre, mais Babel est plutôt l'action prophylactique, Dieu qui empêche un projet qui est un projet totalitaire, et on sait très bien que ces projets totalitaires se finissent toujours dans le sang. On le sait d'expérience, on l'a vu, on l'a goûté pendant le XXe siècle. Donc ce qui est très intéressant, c'est que cette pluralité dans les interprétations de Babel ouvre évidemment à une nouvelle compréhension de la manière dont Babel est située dans le livre de la Genèse, comme l'a fait tout à l'heure le père de l'offre. Car en effet, ce qui est frappant, c'est que cette pluralité d'interprétation permet de comprendre que du coup, il y a une véritable opposition entre Babel et la vocation d'Abraham. Donc d'un côté, quand on lit la Genèse dans sa lecture canonique, donc je ne fais pas ici une lecture historico-critique, je fais une lecture canonique de l'Écriture, on voit très bien qu'après après Babel, qu'est-ce qu'on trouve ? Abraham. Abraham est plus exactement la vocation d'Abraham. Alors, cette vocation d'Abraham, évidemment, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est d'abord et avant tout une initiative divine. Une initiative divine qui est par la parole seule. Cette initiative divine du livre de la Genèse va être d'ailleurs sans cesse relue dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, il faut bien reconnaître que de ce point de vue-là, pour les chrétiens, Abraham a presque plus d'importance que pour les juifs. Parce que pour les chrétiens, Abraham, en quelque sorte, c'est celui qui, par la foi seule, comme dira l'Épître aux Hébreux, par la foi seule, se met en marche, entend la parole. Ce n'est pas une théophanie spectaculaire, c'est la parole seule. Et du coup, par la parole seule, se met en marche parce qu'il a eu foi. Et donc du coup, dans l'Ancien Testament, mais surtout dans le Nouveau Testament, cette vocation d'Abraham va être sans cesse relue, réactivée. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, l'opposition presque terme à terme entre Babel et Abraham. Qu'est-ce que vous avez à Babel ? À Babel, vous avez les hommes qui se parlent entre eux, Dieu qui se parle à lui-même. Avec Abraham, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez Dieu qui parle à Abraham, qui a l'initiative évidemment, et Abraham qui lui répond, jusque dans ce qui est à la racine des prières universelles. Ce fameux marchandage, vous savez, ben, s'il y a 50 justes, quand même, tu vas pas trouver. Bon, ben, s'il y a 50, d'accord. Mais s'il n'y en a que 45, bon, ben, alors, s'il y a 45, d'accord. Et puis, là, ça baisse comme ça, puis, hein, il s'arrive à 10, mais il n'y a quand même pas 10 justes. Et donc, la ville est éliminée. Toc. Mais il y a quand même cette espèce de marchandage à l'oriental entre Dieu et Abraham. Et puis, surtout, ce qui est absolument spectaculaire, je reprends ce qu'a dit le père de l'offre tout à l'heure, c'est le fait que le nom n'est pas une création humaine, mais c'est Dieu qui donne un nom. Et donc ici, on voit presque une opposition terme à terme entre deux figures. La figure d'un projet babélien dans lequel on reste tous ensemble, groupés, et dans lequel on se fait un nom par soi-même. Et puis, la vocation d'Abraham, le projet abrahamique dont nous sommes en quelque sorte. C'est-à-dire l'appel de sa descendance en vue de la bénédiction de toutes les familles de la terre. En toi, Genèse 12, toutes les familles de la terre seront bénies. Mais elles seront bénies par qui ? Par Dieu. Pas par Abraham. De sorte que, ultimement, le dessein de salut sera assuré par Dieu seul, et non pas par l'humanité. Donc on voit ici comment il y a, en quelque sorte, une opposition, un schéma presque terme à terme, entre Babel et Abraham. Alors, évidemment, la question, c'est qu'il faut dépasser immédiatement une lecture trop simpliste qui dirait « Ah ben nous, on est du côté d'Abraham, et puis les nations, le politique, tout ça, c'est du côté de Babel ». Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Parce qu'en réalité, cette dialectique interne entre Babel et Abraham, elle traverse tout à la fois le peuple d'Israël et l'Église, évidemment. Dans le peuple d'Israël, ça se voit dans l'Ancien Testament par les prophètes. Les prophètes, au fond, sont ceux qui rappellent à Israël, au peuple d'Israël, surtout quand il fait l'expérience de la déportation en Babylonie, ce sont eux qui rappellent à Israël que, eh bien, il est le moindre de tous les peuples, pour prendre cet exemple de Deutéronome 7, il est le moindre de tous les peuples. Ce n'est pas de sa force même qu'il est capable d'être porteur du nom de Dieu. C'est parce que Dieu le lui accorde. C'est purement gracieux, si l'on veut dire. Mais bien sûr, pour l'Église, ça prend une importance absolument considérable. Ce rappel qu'elle est du côté d'Abraham et pas du côté de Babel prend une importance considérable. Et ceci se voit, en particulier, je l'illustre d'un point, mais on pourrait l'illustrer d'autres, par la question de la catholicité propre à l'Église. La catholicité propre à l'Église, ici, bien sûr, exhiber cette catégorie de catholique obligerait à prendre beaucoup de détours pour expliquer à quel point c'est structurant tout en étant non biblique, puisque vous savez que le mot comme tel n'apparaît pas dans l'Écriture, mais il apparaît plus tard, dès les premiers siècles d'ailleurs, pour désigner tout à la fois ce qui est, disons, orthodoxe et aussi répandu dans plusieurs lieux. En fait, il faut comprendre, à mon avis, une forme de tension interne ici au christianisme, entre ce que j'appelle Rome et Jérusalem. Cette tension interne au christianisme entre Rome et Jérusalem, elle est perceptible, au fond, dès le Nouveau Testament. Dès le Nouveau Testament, dans le corpus lucanien, parce qu'il y a le corpus lucanien, en effet, se déroule selon un plan, qui part de la Galilée, qui monte à Jérusalem, puis qui va jusqu'à Rome, et Paul dit « je vais aller en Espagne ». Donc il y a un vrai plan de ce point de vue-là géographique. Mais elle est aussi, la figure de Babel est réutilisée par l'Apocalypse pour désigner l'Empire. L'Empire romain, bien sûr, persécuteur. Mais même les conditions de la mort de Jésus, qui est la convergence entre les autorités religieuses de Jérusalem et la puissance politique romaine, montrent cette confrontation, en quelque sorte, entre, disons, la figure babylonienne de l'Empire romain et puis la nouveauté de la vocation d'Abraham. Cette tension, et bien sûr, cette tension est interne au Nouveau Testament, qu'on risque d'oublier. Elle est très palpable dans l'Apocalypse, à mon avis, qui est toujours un écrit qu'on met un peu de côté parce qu'il est gênant. Or, c'est vraiment l'écrit qui manifeste le plus cette tension entre Rome et Jérusalem, disons Babel et Abraham, si l'on veut. Mais cette tension se relâche. Elle se relâche sous l'effet de la christianisation de l'Empire. Elle se relâche avec la lecture providentialiste de l'histoire, d'un Eusèbe de Césarée, par exemple, qui, bien sûr, voit l'Empire romain comme étant la réalisation, le don de Dieu pour que la vocation du christianisme à l'universel se réalise. Elle se relâche encore plus quand on perd l'Orient. C'est-à-dire quand nous, les Latins, nous perdons l'idée qu'il y a des chrétiens en Orient. Et ça, nous l'avons perdu très gravement. C'est encore palpable aujourd'hui lorsqu'on confond catholiques et latins. Pour prendre juste un petit exemple, j'étais dans une conférence il y a quelques jours à Rome, on faisait une conférence sur la préparation des prêtres, enfin des séminaristes au ministère presbytéral. Le conférencier avait bien dit que ce texte, nouveau texte, la nouvelle ratio, était pour tout le monde. Et puis bien sûr, dans son propos, prêtre était égal à célibataire. Autrement dit, prêtre marié de l'Orient chrétien avait complètement disparu. Donc on est vraiment porteur, nous, de cette confusion très grave, à mes yeux, entre catholiques et latins. Ça, c'est parce qu'on a perdu l'Orient, malheureusement. Mais c'est aussi parce que tout un mouvement dans l'histoire qu'on pourrait facilement retracer, mais je ne fais pas par manque de temps, se concentre sur la figure de l'évêque de Rome. Il faut admettre que cette concentration sur la figure de l'évêque de Rome prend beaucoup d'importance après la réforme grégorienne, évidemment, prend aussi beaucoup d'importance par l'action considérable des grands ordres religieux, en particulier les dominicains et les jésuites. Ferme la parenthèse. Ils sont porteurs par eux-mêmes d'une ecclésiologie de l'Église universelle. Mais oui, c'est comme ça. Vous êtes porteurs par vous-mêmes d'une ecclésiologie de l'Église universelle. Évidemment, c'est structurel. Et donc, de ce point de vue-là, les jésuites peuvent le savoir. Ben ça, on pourra en parler. Bon, on pourra en discuter. En tout cas, cette ecclésiologie de l'Église universelle n'a cessé de croître en puissance dans les représentations, en particulier à partir des grands mouvements missionnaires, ça a été dit tout à l'heure par le professeur Yacoub, à partir aussi de Vatican I, et plus exactement de la réception de Vatican I. Parce qu'on a reçu Vatican I en le maximisant. Vatican I, dans le texte, quand on le lit, quand on veut bien lire de près, n'est pas aussi maximaliste sur l'autorité de l'évêque de Rome. Mais donc il y a une véritable tendance historique lourde dans laquelle on oublie l'Orient, on oublie la diversité dont étaient porteuses les églises locales pour un centralisme de plus en plus marqué. Et là-dessus arrive Vatican II. Et je vais terminer par ça. Vatican II. Vatican II qui apparaît en effet comme une nécessaire correction à la réception trop accentuée de Vatican. C'est évident par le rappel de l'affirmation de la sacramentalité de l'épiscopat, donc de la collégialité de l'épiscopat, et par, bien sûr, la revalorisation des églises locales. Mais il y a un point qui est absolument essentiel et qui, pour moi, est la clé de l'ensemble, qui est, avant cela, la reconnaissance par le fameux texte Nostra Aetate, numéro 4, la reconnaissance que la permanence d'Israël n'est pas un accident de l'histoire. Bon, c'est pas venu comme ça. Mais la permanence d'Israël est le signe de la fidélité de Dieu envers son peuple. Et du coup, ceci oblige à une profonde transformation de nos représentations. La permanence d'Israël, encore une fois, je parle du peuple d'Israël, je ne parle pas de l'État d'Israël, même si bien sûr il y a un lien entre les deux. Et cette permanence du peuple d'Israël montre qu'il y a évidemment une limite structurelle à l'Église. L'Église n'est pas le tout. Elle ne l'a jamais été, elle ne le sera jamais, parce que jusqu'à la consommation des siècles, il y aura quelque chose comme Israël. Alors bien sûr, eschatologiquement, nous nous retrouverons, ça, il n'y a pas de problème. Dans le point d'orgue, c'est comme les chorales. À la fin, au point d'orgue, on est tous ensemble. Mais pour l'instant, nous sommes, au fond, unis et séparés. C'est cette fameuse formule vraie dans l'écriture du Père Beauchamp, dont j'ai plaisir à rappeler la mémoire ici, l'un et l'autre testament. unité et altérité à l'intérieur même du même ensemble biblique. C'est pareil pour le peuple de Dieu, l'un et l'autre peuple de Dieu. Et du coup, cette reconnaissance qu'il y a une altérité à l'intérieur même de ce qui nous rassemble a de profondes conséquences en termes de détente. On se détend sur le plan œcuménique en reconnaissant qu'il y a d'autres églises que l'église catholique. On se détend aussi en reconnaissant la pleine consistance de l'église locale et en reconnaissant ces deux ecclésiologies, l'ecclésiologie de l'église locale et l'ecclésiologie de l'église universelle. Du coup, les conséquences, pour moi, elles sont considérables sur la manière dont l'Église contribue à l'universel. Comment est-ce que l'Église catholique contribue à l'universel? Elle n'y contribue pas d'abord et uniquement par la transmission des valeurs, d'accueil, du souci de tous, non. Elle y contribue de façon bien plus structurante par le fait de faire tenir dans l'histoire, visiblement, des tensions. C'est ça qui, pour moi, est absolument essentiel. C'est qu'on fait vivre à la fois la communion et les tensions, les deux en même temps. Ces tensions, elles sont multiples. Église locale, Église universelle, je l'ai dit, mais plus encore, de prendre comme partenaire permanent de ce que nous sommes, ce qui n'est pas nous, c'est-à-dire Israël. Et ici, nous sommes, de ce point de vue-là, toutes les églises chrétiennes ensemble. Là où la manière dont l'Église catholique organise sa contribution à l'universel est profondément liée au ministère du pape, en revanche, avec toutes les églises chrétiennes, nous sommes ensemble, à côté et en face d'Israël, pour témoigner de la vocation d'Abraham, c'est-à-dire du particulier envoyé pour le salut de tous. Cette contribution donc de l'Église catholique à l'universel, elle est donc singulière, et elle est, il faut bien le reconnaître, à distance de toute réalisation politique. À distance, pour des raisons, de consistance propre, mais pour des raisons aussi eschatologiques. C'est-à-dire que nous savons que c'est Dieu qui donnera, qui dira le dernier mot sur l'histoire. Je vous remercie.
Merci Luc pour ta riche intervention. Du coup, je vais me donner la parole pour lancer la discussion avec une question peut-être un peu... Pourquoi la gratter, disons. J'ai trouvé non, qui d'ailleurs se relie avec un certain nombre de choses qui ont été dites avant le père de l'œuf et puis même les deux intervenants tout à l'heure à propos de l'approche spécifique de l'universel, donc qui est au fond la catholicité, hein, qu'il ne faut pas confondre, si je retraduis les choses en d'autres termes de ceux que tu as utilisés, mais je crois qu'on se comprendra, qui ne se confond pas avec le catholicisme, mais catholicité, on est bien d'accord. Et avec cette tension, le cas, l'universel, qui est sans solution jusqu'à la fin des temps, en fait. C'est une visée eschatologique. J'oserais dire que c'est évident. Bon, au moins là-dessus. Mais une question m'a traversé, c'est à cela que j'en viens, à la lumière de ces questions bien, bien posées, telles que tu les as présentées. Et puis alors, un petit peu avec la paire de lunettes du philosophe politique. D'ailleurs, tu dis des choses sur la fin. C'est-à-dire que moi, je la sens pleine, cette tension entre le politique et le religieux. Ça craque. Hein. Et alors, tu évoquais la rencontre les Grecs catholiques ukrainiens. Je trouve que je les connais. Je connais assez bien. Et puis, j'étais pas mal dans les pays orthodoxe. Et quand même, une question qu'il faut... C'est la question que je te pose sur les modalités. Il y a des modalités de la catholicité. Hein. Et on risque... Et là, c'est là que je m'achemine vers ma question, excuse-moi d'y arriver un peu lentement, mais de faire des projections d'occidentaux latins, et qui d'ailleurs montrent que tout ce que tu viens de dire, que la rupture historique très ancienne est loin d'être réglée, c'est qu'elle est actualisée. D'une toute autre manière, c'est-à-dire qu'on n'est plus en 1054, pour donner une date ronde, mais nous sommes en 2018 au même point. Mais cette fois-ci, c'est peut-être aussi nous à nous faire notre examen critique, mais pas pour les mêmes raisons exactement, parce que dans la situation actuelle, dire qu'il n'y a pas, la Pentecôte, alors si dans une vision binaire que vous avez contestée, vous avez raison, antinomique, mais pas au sens binaire, je fais la différence, la Pentecôte, donc voilà, il n'y a plus une nation, en fait, tout est bien, tout va bien, ah bon? Écoutez, vous avez voyagé, vous allez dans les églises orientales, et je dis ça devant Joseph, c'est pas pour faire une critique. J'ai assisté à des cultes et à liturgie byzantine. Pour moi, orientale, c'est plutôt ça. Qu'est-ce que je vois? Je vois une homogénéité culturelle parfaite. Quand je vais à l'église de Saint-Germain, je vois un peuple de Dieu qui est aussi un peuple civil, en fait, qui parle la même langue. Il ne parle pas plusieurs langues, il n'en parle. C'est le rite dit bien. Autrement dit, dans ce qu'on appelle la catholicité, sa tension locale universelle, on voit bien que c'est aussi un pôle d'identification extraordinairement fort. Moi, j'ai vécu d'ailleurs avec les mêmes Grecs catholiques à Chicago. Il y avait trois choses qui les réunissaient. On est américains, mais on est d'abord ukrainiens. C'est-à-dire, la première, après la liturgie de Pâques, c'est la cuisine. On mange ukrainien. La deuxième, on parle ukrainien entre nous et pas américain. Et la troisième, c'est la religion. Puisqu'on n'est plus en Ukraine, au moins, on se retrouve. Hein, vous voyez, alors c'est la question, c'est quand on dit Pentecôte à ce moment-là, est-ce que c'est, on ne fait pas une projection multiculturaliste d'aujourd'hui occidentale et liée à un certain universalisme latin sur ce qu'on appelle la Pentecôte, ou bien effectivement on parle de tout à fait autre chose. Et alors à ce moment-là, on peut réarticuler les ponts entre l'Occident et l'Orient, parce que je ne crois pas qu'ils soient sur la même planète que la nôtre. Et sur la manière de concevoir l'un et le pluriel. Voilà, c'est eux.
Peut-être oui, je pense que...
Mais peut-être que... oui.
Je peux répondre rapidement sur ce que... Je dis trois choses à voir, à mon avis. D'abord, il y a une déontologie à avoir. C'est-à-dire que vous voyez très bien que, effectivement, il y a des modalités propres pour vivre la catholicité. Moi, je suis catholique. Donc, j'estime de mon devoir de... regarder d'abord la manière dont l'Église catholique fonctionne. Et je me garde bien de regarder ce que font les orthodoxes et les protestants et de leur dire « vous devriez faire ceci et cela ». Eux-mêmes, peut-être, trouveront les moyens de voir les réformes qu'ils ont à faire. Moi, par déontologie, je m'intéresse et je mets en avant les réformes dans lesquelles nous devons entrer. Donc là, nous sommes déjà un peu entrés, premièrement. Deuxièmement, évidemment, ici, tu fais allusion à quelque chose qui est très important, qu'on appelle, disons, les églises de migrants. Ou les paroisses de migrants. Les paroisses de migrants jouent un rôle considérable. Aux États-Unis, elles ont joué un rôle historique dans la structuration même du paysage religieux et même politique des États-Unis depuis Christophe Colomb, depuis les pèlerins, disons. Donc ces églises, ces paroisses de migrants ont des caractéristiques qui sont tout à fait propres. Et ce qui est très intéressant, c'est la troisième chose que je veux dire, c'est que pour l'ecclésiologie catholique, l'unité de base n'est pas la paroisse, mais le diocèse. Donc on peut imaginer. On a des paroisses, disons, ethniques, voilà, pour dire de façon, voilà, si je le dis comme ça, ou culturelles, ou disons, voilà. En revanche, le Saint-Siège a toujours refusé la création de diocèses ethniques. Ça veut dire que l'évêque, lui, doit être le garant d'une catholicité qui implique une multiplicité d'ethnies. Et bien sûr, l'évêque de Rome, plus encore. Donc ça, ça a été le choix, c'est le choix propre à l'Église catholique, mais ma critique, disons, mon observation, c'est que je ne suis pas sûr que nous, dans l'Église catholique, nous soyons à la hauteur de ce que nous confessons. C'est-à-dire que nous n'avons pas la pratique de notre théologie. Nous confessons une diversité réconciliée. Je ne suis pas certain qu'on soit vraiment en mesure de la mettre en œuvre.
Bref.
Alors, à mon avis, c'est-à-dire que moi, qu'il n'y ait pas qu'une seule ecclésiologie, c'est ce que j'essaie de dire, puisque j'ai dit qu'il y avait tension. Donc ça, je suis bien d'accord avec vous. En revanche, il ne faut pas confondre ecclésiologie et droit canonique. Donc là, bien sûr, ce qui nous manque, c'est un canoniste. Parce que dans les 22 églises orientales catholiques, il y a d'énormes diversités dans les, sous iuris, disons, il y a d'énormes diversités dans les pratiques, qui sont dues à des raisons historiques, etc., etc. Donc toutes n'ont pas ce fonctionnement-là que vous décrivez. Donc c'est encore plus divers que ce que vous dites, de toute façon. mais ici, ce serait un canoniste qui serait intéressant. J'ajoute que, il y a un débat ancien dans ces églises qui sont aujourd'hui confrontées pour certaines d'entre elles, à des migrations massives sur la question du territoire canonique. car elles ont un fonctionnement différent dans ce qu'on appelle le territoire canonique, qui est tout à fait discutable, et dans ce qui n'est pas le territoire canonique. Et depuis longtemps, certains patriarches orientaux demandent à avoir, au fond, à ce que cette distinction soit levée. Pour l'instant, le Saint-Siège a toujours refusé, pour des raisons qui peuvent se comprendre, au nom de ce grand principe de l'unicité de l'évêque dans une ville. C'est discutable, je suis bien d'accord. Mais ça veut dire qu'en fait, là, on entre dans des considérations qui sont plus canoniques, à mes yeux, qu'ecclésiologiques. Et c'est vrai que là, mais là, moi, je n'ai pas les compétences, mais un canoniste pourrait montrer qu'il y a encore plus que ce que vous dites d'ecclésiologie, mais au sens plutôt de pratique canonique.
Oui, bien sûr, les questions, alors Paul Valadier a raison de le rappeler, les questions, il y a peut-être une ambiguïté qui est installée, mais c'est de mon fait, les questions concernent les quatre intervenants, bien sûr, les quatre interventions, elles ne sont pas liées simplement au... Nous sommes là dans une discussion générale de l'après-midi, hein. Donc peut-être même qu'il faudrait que Véronique Albanais-Josacou se joignent. Là, on a eu un premier temps d'échange avec les deux derniers intervenants, mais je crois que ce serait mieux qu'il y ait une sorte de plénière, en quelque sorte. Je laisse s'installer les deux premiers intervenants, et puis ensuite on va vous entendre. Voilà, on vous écoute.
Bien commencer à essayer d'apporter un début de réponse. Peut-être préciser sur cette question de l'universel. Enfin, moi, je suis très intéressée d'entendre ce que vous avez dit sur la multiplicité des ecclésiologies et peut-être de multiplicité de l'universel. Ce qu'il faut rappeler, je n'ai pas pu le faire, mais c'est que dans l'analyse d'Huntington, il considère qu'il n'y a pas de place pour l'universalisme. C'est-à-dire que s'il y a un universel, ça nourrit, l'universalisme nourrit le clash des civilisations. Il faut renoncer à ça. Et j'avoue que, je dévie peut-être un peu, mais ça m'a intrigué dans ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'actuellement il y a énormément de publications sur toutes les questions des droits de l'homme, le procès des droits de l'homme, l'origine religieuse des droits de l'homme, qu'on qualifie parfois de manière très méprisante « droit de l'homisme ». Et je me pose la question, c'est est-ce qu'on peut renoncer à un universel? Enfin, moi, pour ma part, je ne renonce pas à un universel. Alors, peut-être qu'il doit se décliner dans sa formulation de manière multiple, avec une bénédiction de Babel, je ne sais pas comment le dire. Mais pour moi, renoncer à un universel, et notamment renoncer à une forme de droit de l'homme, ou de droit, je dirais, de tout homme à être respecté, d'appartenir à l'humanité, pour moi, ça ne peut être qu'un horizon commun. Et je ne suis pas prête à renoncer, quel que soit, j'allais dire, cette ouverture à la pluralité qui m'est très chère, hein, et à toutes ces multiples déclinaisons d'une forme d'humanité, je ne suis pas prête à renoncer à cet universel-là.
Oui, c'est vrai, c'est un grand débat, la question de l'universel, les droits de l'homme. Est-ce qu'il y a des droits de l'homme en dehors de principes, en dehors des principes? Mais l'homme ne vit pas de principes, l'homme vit de réalité. C'est-à-dire, chaque fois que les choses prennent chair, c'est le contexte, c'est les langues, c'est les cultures, c'est ça qui parle chez chacun de nous, en chacun de nous. C'est vrai que l'Occident est très attaché à l'universel. C'est en son honneur peut-être. Mais l'homme ne vit pas que de principes. Vous voyez, l'homme ne vit pas que de principes. Et cela, on l'a pratiqué. Ça a été, dans l'histoire de l'humanité, c'est une constante de tout temps. Les chrétiens se sont entre-déchirés dans l'histoire. Alors en quoi ce message universel a pu les retenir pour garder leur unité? En quoi? Tout à l'heure, il était question des dominicains, des jésuites, au XVIe siècle. On a brûlé des livres en Inde. On a brûlé des livres liturgiques en Inde. On a la liste des ouvrages. On a fait un auto-da-fé. Et celui qui le dit, c'est un prêtre, Jean-Baptiste Chabot, qui le dit dans ses écrits. J'ai la liste des ouvrages qui ont été brûlés. Parce que quand ils sont arrivés là-bas, leur foi ne les a pas empêchés de voir des hommes réels. Ils voyaient des gens, ils leur disaient, vous faites la messe en quoi? Ils leur disent, en araméen. Alors que pour eux, l'universel s'identifiait au latin. Ensuite, ils ont étudié leurs pratiques, ils ont vu que, etc., etc. Du coup, ils ont fait, et ça c'est connu, vous pouvez le chercher, c'est connu, c'est en 1599 au concile de Dampierre. Et jusqu'à aujourd'hui, chez les Indiens, Siro Malabar, ça ne passe pas. C'est un creux dans leur histoire, c'est un drame. Et ce qui s'est passé en Mésopotamie également. Pendant le Concile Vatican I, il était question tout à l'heure de Pie IX. Pie IX a soustrait à la juridiction du patriarche de Babylone l'Inde. Il l'a lui soustrait et il l'a rattaché directement à Rome, c'est-à-dire à l'Église latine. Vous voyez, on peut des heures et des heures épiloguer sur l'universel, mais c'est que l'homme vit dans la pratique. Il vit dans des langues, dans des cultures, dans des traditions qui souvent, malheureusement, s'entrechoquent.
Vaste question. Ce qui est certain, c'est que sur le terrain purement déjà pragmatique, l'intervention de Bush n'a pas été couronnée de succès. Donc, je pense que à la fois, elle a été sans doute conduite pour différentes raisons, sans doute aussi inspirée par des motifs chrétiens au sens évangélique du terme, avec une conviction que Dieu rendrait la victoire évidente. Et puis, cette fameuse théorie du domino, qu'il suffisait d'actionner un modèle et que ça allait se propager. Le résultat est tellement sidérant et tellement à l'inverse de ce qu'on a imaginé, enfin de ce qui pouvait être imaginé par certains à l'époque, je pense que, enfin, il me semblerait assez évident, et là encore une fois, purement sur une approche d'expérience, d'en tirer un certain nombre de leçons, et j'insiste à nouveau, si le livre d'Huntington a une vertu, c'est de nous rappeler, de nous mettre en garde contre cette forme d'arrogance et de prétention à dire, à la place des cultures, à la place des peuples, à la place des civilisations autres, ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire. Je serais assez tentée de convoquer Montesquieu sur ce terrain-là, c'est qu'il y a finalement une certaine convenance, il y a peut-être pas qu'une formule politique. Encore une fois, ça pour moi c'est l'approche purement relation internationale ou géopolitique, c'est que je crois qu'il est inutile vraiment de prétendre dire aux autres comment faire. Et que là, pour le coup, je crois qu'il y a vraiment des fossés culturels, peut-être civilisationnels, je ne sais pas trop le dire, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, il y a une forme d'orgueil légitime de chaque culture à s'auto-gouverner, voilà, s'auto-déterminer. Je pense que ça, c'est un acquis, et tant mieux. Si je dois le relier quand même à mon espérance, c'est qu'il y ait quand même quelque chose de commun. Parce qu'après tout, si nous n'avons rien en commun, nous, les hommes, je ne vois pas très bien d'abord comment on pourrait sauver notre maison commune, ni comment on pourrait bâtir quelque chose ensemble. Alors, la guerre est inévitable et nous n'avons plus que nos intérêts qui nous divise. Donc je pense, oui, qu'il y a une humanité commune. Moi, j'en reviens à quelque chose de base, et ce n'est pas du tout du discours ou des principes. C'est très concret, c'est très pratique. C'est quelque chose que je côtoie au service Jésus des réfugiés, et bien d'autres ici pourraient en parler, qui est simplement l'homme en détresse, il y a des ponts communs, il y a un langage commun, il y a quelque chose de commun qui se dit dans l'homme et qui est éminemment respectable et qui doit être à tout prix défendu. C'est ce que le pape appelle la centralité de la personne humaine. Alors, est-ce qu'on peut bâtir une politique des relations internationales sur ce principe? Pour moi, c'est une vraie question. Ça, c'est une vraie question. C'est comment passe-t-on? Mais je crois que le pape le fait magnifiquement bien. Je ne dis pas que c'est facile, vu le nombre de personnes qui le critiquent. On voit bien quand même qu'il y a peut-être une forme d'apprentissage de sa part, d'expérience concrète et de diplomatie ou de, je ne sais pas moi, de réalisme politique qu'il doit, je ne sais pas. Enfin, il y a quelque chose qui, à mon avis, est un peu inquiétant dans les divisions qu'il suscite. Ça n'empêche, je crois que sa ligne me paraît être la seule. Je n'en vois pas d'autre en tant que chrétien et en tant qu'humain. Et ce qui me fait dire cela, c'est pas simple. C'est que quand je vois, notamment dans un pays aussi sensible sur cette question et aussi heurté par le religieux que peut être la France, la manière dont ils accueillent la parole du pape, je me dis quand même qu'il a réussi un pari fantastique, c'est à mettre les laïcs dans sa poche. Donc je dis que c'est de bon augure.
Pour répondre à vos questions qui sont très pertinentes, en parlant de l'ONU, etc., vous avez déployé une ecclésiologie de l'Église universelle. C'est-à-dire vous êtes mis au niveau du pape, ce qui est juste. Mais moi, il faudrait. Et là, avec Mme Albanel, on a eu quelque chose qui est plutôt beaucoup plus local, qui est les efforts faits localement, ici en France, là vous étiez vraiment en France, pour accueillir, prendre les quatre mots du pape. Hein. Je pense que des quatre mots du pape de la journée d'après-demain, accueillir, protéger, promouvoir, intégrer. Donc je pense que les quatre mots, les quatre verbes sont à prendre en système et ne pas laisser croire qu'il n'y a que de l'accueil. Il y a aussi la protection, donc ça implique toute la fragilité et la vulnérabilité humaine, mais la promotion, donc ça veut dire aussi permettre aux gens d'arriver et de s'établir et de s'installer s'ils le souhaitent, et l'intégration. Donc ça c'est vraiment très important parce que ça c'est réciproque. Sous-entendu, c'est ça que ça veut dire chez le pape. L'intégration, pour le pape François, le verbe intégrer est très très important. C'est ce qu'il emploie pour la pastorale familiale, etc., etc. Moi, je dirais que la contribution de l'Église catholique de ce point de vue-là, elle est certainement importante au niveau des relations internationales. Vous avez très bien fait de mentionner l'appui de pape, depuis Pie XII d'ailleurs, jusqu'au pape François, à ce qui est devenu l'ONU, avec toutes les visites faites deux par Jean-Paul II, une par Benoît XVI, une par François, et une par Paul VI, évidemment. Donc ça, c'est très important. Ce n'était pas le cas avec la SDN, parce que plusieurs États, dont l'Italie, s'étaient opposés à ce que le Saint-Siège soit membre de la SDN, mais c'était vrai pour l'ONU. Mais il faut être clair, il est évident que l'Évangile n'est pas un programme politique. On ne peut pas traduire en termes d'une politique d'un État. On ne peut pas traduire une politique de l'État, d'une entreprise. On ne peut pas traduire l'Évangile de façon immédiate. Autrement dit, pour le dire autrement, la confession de la même foi, la célébration des mêmes sacrements, la communion au même pasteur donne légitimement une diversité politique. Voilà, ça, il faut le tenir. Donc ça veut dire que l'action de l'Église, elle est toujours à visée eschatologique. Et elle articule l'annonce d'une parole, le soin des plus petits et la liturgie. Et c'est les trois, et pas seulement un des aspects. De sorte que, de ce point de vue-là, la contribution de l'Église, à mon avis, il faut le dire, elle est essentielle, mais elle est modeste. À ce moment-là, je dirais la difficulté de transmission, ce qui est tout à fait différent. Ah si, elle se transmet. Non, le je dirais pas tout à fait ça, enfin, peu importe ici. En tout cas, c'est de l'ordre de la question de la difficulté à transmettre. Mais d'une certaine manière, cette difficulté à transmettre, elle est aussi dépendante de notre capacité à témoigner. Donc c'est évident que de ce point de vue-là, quand moi je parle synodalité, je parle évidemment en ecclésiologue, mais c'est indissociable de la conversion personnelle. Donc effectivement, ce dont on a besoin, c'est de témoins. Voilà. Mais c'est pas dire déchristianisation laisserait croire qu'il y a comme un programme d'éradication. Non, Non, c'est que, de fait, nous avons peut-être plus de mal qu'avant à témoigner de la résurrection. Mais pour moi, c'est pas simplement, voilà, ça se joue pas simplement au niveau des sujets. Ça se joue tout autant au niveau des églises. Voilà, c'est pas séparable. Donc moi, j'ai développé un point de vue ecclésiologique, mais il y en aurait d'autres.
Dans l'évangile de Saint-Luc, vous avez un phénomène assez intéressant qui est le phénomène de masse. Hein, c'est-à-dire, il y a un événement, tout le monde est en train de louer Dieu et tout le monde est épaté par ce qui était en train d'arriver. Mais le passage, c'est pas ça qui conditionne le passage, c'est pas le passage à la foi automatique, loin de là. Il faut qu'il y a toujours la rencontre avec le Christ hein, dans l'évangile de Saint-Luc et dans les autres évangiles d'ailleurs. Il y a toujours cette rencontre personnelle avec le Christ. Je l'ai souligné tout à l'heure avec le récit de la Pentecôte. Hein. Tout le monde est complètement étonné dans la confusion. Le mot est très ambigu, vous voyez, parce qu'il nous ramène en effet, il nous ramène à Babel. Hein. Tout le monde est dans la confusion, étonné, perplexe. Et puis, il faut reconnaître que l'événement lui-même, des langues de feu qui se divisent et des gens qui parlent dans des langues qu'ils n'ont pas apprises, c'est quand même quelque chose. Quoi. Mais c'est pas pour ça qu'il y a un passage à la fois. Il faut justement le discours de Pierre. Voilà, il faut le discours de Pierre qui interprète les Écritures. Hein, il dit le prophète Joël et ceci et le psaume, etc., etc., etc. Donc qui fait appel aussi à la mémoire scripturaire des uns et des autres pour qu'à un moment il y ait une décision, hein, pour qu'il y ait un acte de liberté qui fait qu'ils accèdent au baptême. Voilà. Et cette question de déchristianisation, vous savez, je crois qu'on l'aperçoit d'une façon totalement différente selon les lieux où on se situe. Moi, par exemple, je suis responsable d'une maison de séminaire, du séminaire de Paris. Nous avons des séminaristes coréens actuellement chez nous. Mais en Corée, il y a une explosion du christianisme, qu'il soit d'un catholique ou d'ailleurs protestants d'une manière diverse et variée, dans un pays qui pourtant est un pays de haute technologie, etc., alors où nous interprétons souvent les choses en disant « oui, c'est le pouvoir de l'argent, de la technologie qui étouffe finalement la foi », ben là nous avons absolument le contraire. Donc vous voyez, nous sommes obligés de changer nos repères, nos référentiels. Nos manières de voir, nos manières de penser et d'analyser ne fonctionnent pas dans tous les cadres.
Et si je me permets juste une petite minute d'intervention, puis ensuite madame voudrait parler. Si, pour essayer d'essayer d'entendre hein, ce que vous dites, je crois que vous vous situez sur un plan plus sociologique. Ce n'est pas au sens d'une décrispation intentionnelle, politique, qui était effectivement violente en plus. Mais je crois que la question que vous soulevez, je la comprends comme ça. Vous me direz si je me trompe ou pas. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la conjonction de deux phénomènes. Je parle pour nous, ici, européens. À savoir, une fragilisation du christianisme. Alors, je dis fragilisation plutôt que déchristianisation. Je pense à ça par cette entrée-là. Hein par ailleurs, comme vient de dire le père Deleuve, par ailleurs, il y a aussi une montée exponentielle dans d'autres pays du christianisme et des pays qui ne sont pas chrétiens historiquement. Alors nous, on a un sentiment de fragilisation et qui est renforcé par le phénomène migratoire. Vous dites, bon, après tout, ça pourrait être des bouddhistes, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Bon, il se trouve qu'ils sont plus loin, là, les musulmans. Donc, on voit bien la conjonction critique que ça crée en termes identitaires. Alors, on en revient à la question identitaire. Hein. Qui sommes-nous? D'où sommes-nous? Etc. Ça pose ce problème-là. Hein. Et alors, bien sûr, ça, c'est un défi redoutable parce que ça peut générer des réponses violentes, éventuellement. Comme ça peut générer des réponses plus raisonnables. Mais je crois que c'est ça le problème. Comment faire face à cette fragilisation? C'est comme ça que je l'entends, mais... Ben, mais je ne veux pas me faire le... prétends pas être l'exégète parfait de votre... Mais bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Madame, vous avez une question?
C'est la liturgie, la prière, la louange, tout ce qui est de l'ordre de la liturgie. Les trois s'articulent dans le christianisme.
Voilà. Bien, écoutez, je crois que je vois qu'il est 10h, 18h, une ou deux. Bon, ça va, c'est pas. On a dit que ça ne serait pas 18h coup près, donc nous allons arrêter là. Simplement, je vais faire une très très brève conclusion. C'est pour dire qu'on voit bien, c'est un peu des banalités, vous avez à certains égards, de dire qu'il y a là une complexité de la question, on s'en doutait, on a pu la vérifier, mais c'est pas négligeable. Alors une complexité qui est aussi une richesse, parce que on a entendu des propos qui proviennent chacun sa discipline, on voit bien. Hein, et donc chacun ayant sa discipline, il a un certain regard sur le réel, une certaine connaissance du réel, qui est là-bas même le regard d'un philosophe politique, et bien particulier la position qu'a bien restituée, encore plus sur un auteur qui était même quelquefois à tort controversé. En réalité, on lui a fait plus dire ce qu'il n'a dit. Et Véronique Albanel a bien fait de je crois que c'était bien d'entrer par la pensée de Huntington. Et puis le regard aussi de l'anthropologue, enfin qui va être tout à fait différent. Et ensuite, on a eu l'exégète et le théologien. Et on voit bien que dans les discours que l'on tient, à chaque fois, ils sont liés, bien sûr, par des angles rationnels qui ne sont pas les mêmes et qui peuvent même résister. Là aussi, il y a une altérité. Ils peuvent résister les uns aux autres. D'ailleurs, je disais au professeur Forestier tout à l'heure, moi qui suis aussi, d'ailleurs, comme Véronique Albanel, un philosophe politique, quand j'entends des choses comme celle-là, ça m'intéresse. Mais je réagis avec une autre oreille. Hein. Donc, c'est un peu inévitable. Et c'est au fond rejoindre la remarque que madame faisait tout à l'heure sur comment arriver à joindre les deux bouts, en quelque sorte, heure des civilisations ou de Pentecôte des peuples. Il est toujours délicat de toute façon et en même temps inévitable, hein, de poser le rapport entre ce qu'est une civilisation ou une culture, d'ailleurs, bon, puisque de fait on peut distinguer les deux termes, et puis ce qu'il y a de spécifique à une religion et à une expérience spirituelle. Et la foi, qui est encore autre chose, qui n'est pas religion, qui est la foi. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, on est devant un spectre de questions considérables, parce que la foi en elle-même, bon, le Christ n'a jamais prêché une civilisation, c'était pas le but, et en même temps, c'est vrai aussi, hein, qu'il y a une civilisation qui s'est réclamée du christianisme. Hein. Et puis, il y a comme d'autres civilisations se réclament d'autres prismes religieux. Donc c'est évidemment, c'est kaléidoscopique, on ne peut pas prétendre trouver la solution, c'était pas le but de l'après-midi, mais en parler, c'est, je crois, certainement de nature à verbaliser des problèmes qui souvent sont enfouis, qu'on n'ose pas traiter ou aborder de manière sereine. Et je crois qu'on a réussi à le faire, au moins le temps d'une après-midi. Et on peut espérer même peut-être que les textes seront, comme on essaye de le faire chaque année avec Paul Valadier, on essaiera de les publier. Je formule en tout cas un espoir. Voilà. Et nous vous remercions à nouveau chacun d'entre vous et la présence de tous les partis de l'assistance qui était là et qui nous a permis cette discussion. Voilà. Non, merci.